bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Une bande originale aujourd'hui avec Frédéric Segrist.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Jérémy Crépville. C'est son anniversaire aujourd'hui. Salut. Elle s'appelle Leïla Kotoropoudadi.
Salut Daniel Morin, bonjour à tous. Soyez les bienvenus.
Une émission, je vous l'explique, qui est sans Nagui.
Ouais.
Mais pourquoi?
Pourquoi n'est-il pas là, Nagui? On n'en sait rien, on attend d'avoir de ses nouvelles. Je crois que Jérémy a mené l'enquête.
Exactement, tout
d'accord,
à fait.
D'accord, on en saura plus tout à l'heure. Si vous avez des infos, en tout cas, de Nagui, vous n'hésitez pas à nous envoyer un fax. On s'est modernisé, on a un fax qui fonctionne à France Inter. En deuxième heure, Tanguy Pasturo sera là. Et nos invités, les là, sont aujourd'hui...
Anaïs Demoustier et Grégoire Ludig.
Bravo. Salut, Grégoire. Sur alors, cette chanson Eurodance.
Oui, c'est ça, je sais pas d'où vient cette musique, c'est générique.
Alors, c'est juste la musique
qui est du portable de Daniel.
La musique qui devait partir tout à l'heure pour annoncer que Nagui était absent.
Ah, voilà.
Okay, voilà. Mais on l'a maintenant. Donc ça.
On aura à chaque fois quelques petites minutes de décalage dans cette émission, je le sens. J'espère que nos invités répondront au moment où on leur pose une question. En tout cas, bienvenue à tous les deux.
Merci.
On est ravis de vous accueillir pour un film qu'on a adoré. Le nouveau film, c'est le nouveau Dupieux, c'est devenu une marque.
C'est vrai.
Au poste. Une comédie noire, une comédie. On va en parler. C'est pas aussi simple que ça, et c'est justement ce qui fait l'intérêt de ce film.
Et c'est aussi simple que ça, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du film.
C'est exactement ça.
C'est
vous aimez.
Vous êtes bien complémentaires tous
les deux.
Vous
avez vu.
Ils sont bien complémentaires.
On nous appelle
les
sorciers.
Ah oui, voilà, c'est ça.
En tout cas, si vous aimez l'absurde, vous allez être servi. Vous allez adorer Au Poste en salle le 4 juillet. Je fais une tentative de pitch parce
qu'il
faut faire quand même la
dur, hein.
Oui, c'est dur et en même temps c'est simple. C'est justement le paradoxe.
Voilà. C'est
le pitch, on est dans un huis clos, en gros, qui se passe dans un poste de police. On a un commissaire qui est chargé de résoudre une affaire de meurtre. C'est Poulvord. Face à lui, on a un principal suspect qui se fait malmener du début à la fin.
Mm-hmm.
C'est Grégoire Ludig.
Tout
un interrogatoire. Où finalement, rien ne se passe comme prévu, mais en même temps, c'est à peu près normal, parce que dans un film de Dupieux, rien ne se passe vraiment comme prévu, même si ça se passe à peu près logiquement.
Voilà, donc bonne soirée à tous.
Il est malmené, mais pas trop.
Mais pas trop.
Il faut prendre une partie de la question à chaque fois.
Ouais, d'accord, ok. Alors oui, c'est vrai que c'est simple, mais pas trop, mais parce qu'en fait, oui, c'est surtout un moment du quotidien, un moment où, c'est dans un commissariat de police, bon, on ne sait pas trop où, ni quand, ni avec qui, ni pourquoi.
Clairement, ouais.
Mais voilà, c'est comment une situation banale, entre guillemets, va digresser, va continuer, va s'envenimer, va se transformer. Et je pense que c'est ça qu'il a filmé de manière hyper premier degré. Et du coup, à mon avis, hein, hyper drôle. C'est marrant.
Ouais, ça va. Mais ça marche très très bien, vraiment.
Grégoire, est-ce qu'il y a un message?
À vous de voir, il n'y avait pas de problème.
Alors, on vient de parler, de votre personnage, ce principal suspect qui a eu le malheur de découvrir un type en bas de son immeuble avec la tête fracassée, en
Exactement.
Gros. Vous êtes fugain.
Oui.
Vous êtes un brun moustachu. Vous êtes, pour moi, vous êtes
belle
magnum.
Moustache, quand même.
Ouais, vous êtes magnum.
Mais ça a été la direction. Hein. Quand on m'a appelé, on cherchait un peu. Au début, il fallait qu'il ait les cheveux longs, les cheveux courts, rasés, pas rasés, barbe, pas barbe. Et puis après, il m'appelle, il me dit, oui, ça faisait beaucoup.
Ouais,
donc
clairement.
Du coup, on a simplifié les choses et il a dit, OK, tu seras
magnum.
Moustachu, tu auras une belle grosse moustache et une petite chemise hawaïenne. Et voilà.
Et ça marche hyper bien. Ça,
ça vous a fait rire.
Bah, merci, vous avez une belle qualité de moustache.
Oui, elle est assez fournie, oui.
Daniel s'y connaît.
Et puisqu'on parle de poils, ou en tout cas de, voilà, il y a une dimension capillaire qui est pas non plus inexistante chez Anaïs Demoustier.
Ah bon?
Faut quand même dire.
En effet.
Faut dire que voilà, vous avez un petit côté méconnaissable, Anaïs.
Oui, je suis affublée d'une sorte de touffe, une sorte de moumoute frisée blonde. Et la référence était Valérie Mérès, en fait. Et Quentin m'a tout de suite parlé cheveux. Hein. Je pense que ça l'intéresse. Ça compte pour lui. Il m'a immédiatement parlé cheveux. Il m'a dit tu seras Valérie Mérès. Il m'a envoyé des photos. Et donc on a fait une perruque. J'étais ravie, moi, de changer de tête.
Et il y a l'accent aussi.
Et
il y a une intonation.
Ouais. Alors l'accent, ça s'est venu après. Et moi, en fait, il m'a dit il faut qu'elle soit complètement débile. Donc il y avait Zézette aussi du Père Noël et du Mordure comme référence.
Ouais. C'est normal.
Et donc il m'a dit voilà, il faut qu'elle soit vraiment très très bête. Enfin, encéphalogramme plat, œil morne et tout. Donc moi, j'avais beaucoup de plaisir à faire ça parce que je l'ai jamais fait. Et je pense que je suis complètement débile. Donc c'était chouette de pouvoir exprimer ça.
Vous le faites hyper
vous
bien.
Ah, c'est très agréable. Ouais. C'est comme j'avais joué quelqu'un de ivre récemment. C'est très agréable en fait, les personnages qui sont complètement lâchés, qui sont totalement relâchés et bêtes. Et voilà, et la perruque, et l'accent, c'est moi qui l'ai proposé l'accent, bizarrement. Je me suis dit, tiens, quand il a fallu...
Elle vient du Nord
J'entends les mails déjà.
Mais non, parce qu'Anaïs...
Comment ça, elle est débile, donc elle a l'accent.
Mais non, Anaïs, faut dire d'où vous venez.
Je viens de Villeneuve d'Ascq.
Voilà. Très vous avez le droit. Et vous incarnez la femme de Philippe, qui est dans le bureau avec le commissaire, qui est incarné par Monsieur Fraise.
Voilà, Monsieur Fraise.
Exceptionnel Monsieur Fraise. Vous passez votre temps simplement à chercher votre mari, en fait. Voilà, vous avez
un... Dans le scénario, j'ai été la comptable du commissariat, ce qui n'existe pas. Et en fait, je passe une tête de temps en temps, je cherche mon mari, et je vois où il est, et voilà.
Et vous partagez.
Et j'ai un tic de langage, voilà. Et je dis tout le temps, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Comme mon mari qui dit tout le temps aussi, c'est pour ça. Et donc, voilà, en fait, c'est génial parce que Quentin Dupieux s'amuse de... Enfin, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui écrit une langue spéciale, une langue particulière. C'est absolument pas naturaliste, en fait. Ça a l'air d'être anodin, mais en fait, quand on apprend les textes, on se rend compte que c'est pas du vrai naturalisme. Et c'est... pour les comédiens, c'est génial. C'est vraiment très, très agréable à apprendre, à jouer. Et je me suis beaucoup amusée. Enfin, on s'est beaucoup amusé, je crois.
Tout à fait. Mais alors, tout le monde s'enfonce dans une espèce de banalité qui, au final, doit être dure à tenir. Parce qu'on est hyper sérieux en tenant des propos qui ne sont pas du tout intéressants.
Oui, mais comme c'est très construit, ouais. Je pense que le scénario, en fait,
émission.
Est très construit.
Oui.
Non, mais il a raison. Ça jette un froid.
Ils sont conscients.
Je parle pas pour vous, hein, je parle pour nous.
Ouais. C'est le sixième film. En fait, c'est le sixième film de Quentin Dupieux. Et là, en fait, on parle de comédie noire depuis tout à l'heure, mais il y a un sous-genre aussi, c'est l'interrogatoire. Parce que finalement, c'est de ça dont il est question. Le commissaire, le suspect, qui vraiment, j'ai pitié pour vous dans ce film parfois, Grégoire, ouais. Parce que finalement,
vous
votre
pouvez,
personnage.
Ça fait très longtemps que j'ai pitié de vous, moi.
Quand j'ai vu le film, je me suis dit, oh là 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 là.
Non, mais c'est un personnage tellement gentil, qui est assez banal, on vient de le dire, simple, qui finalement est plus préoccupé par quand est-ce qu'on mange.
Oui, c'est ça, en fait. Lui, il se prend toutes les questions de la terre pendant toute la nuit, mais lui, c'est oui, mais alors moi, j'ai rien, j'ai juste faim, j'ai la dalle, en fait. Donc, si on pouvait abréger, on peut pas reporter, c'est pas possible. Bon, bah super, bah donc je vais avoir faim, quoi. Si ça gargouille, c'est pas moi. C'était vraiment jouer, c'était l'indication de Quentin, c'était toi t'es premier degré. Toi, ouais. Pour toi t'es complètement innocent de tout, enfin ton personnage l'est, mais t'as juste faim. Donc c'est bien, l'autre il cherche sa femme, il est parti, il est fou, mais moi j'ai la dalle, je vous jure, j'ai faim, ça va fermer là. Là, ça a fermé. Et donc, il y avait une direction pour Quentin, mais pour tous les personnages, il fallait pas que ce soit non plus des personnages trop extravagants. Il fallait qu'ils aient quand même une ligne de vérité. J'ai envie de dire, ça se dit pas, mais on a tous compris ce que j'ai dit, une ligne de vérité. Ouais, il fallait qu'on soit premier degré, mais vraiment. Il fallait qu'on représente le quotidien et chacun à notre manière. Et ce qui fait un peu cette ribambelle de personnages, on est tous, en fait, plus chelous les uns que les autres.
Le suspect, mais c'est pas quand tant même le moins chelou. Le suspect.
C'est exactement. Mais il est plus spectateur de tout ça, en fait. Lui, il se prend vraiment toute la vie de tous les personnages du commissariat. Lui, d'accord. Donc il hallucine un peu.
Mais où je suis.
Mais il fallait tenir ça. Il fallait juste tenir. D'accord. Donc là, eux, ils sont complètement ouf. Moi, j'ai juste envie de rentrer. Et parce que si on faisait partir aussi le personnage de Fugain, qui était un peu l'œil, pas omniscient, mais qui est un peu le regard du spectateur, exactement, ouais. On perdait un peu le truc. Et ça a été vraiment une ligne directrice de garder ce calme, on va dire.
Et face à Benoît Poelvoorde, comment on gère ça? C'est pas la première fois que vous êtes ensemble dans un film.
Non, c'est pas la première fois. Mais on avait tourné, enfin, j'avais quelques scènes dans Les Émotifs Anonymes.
Ouais,
qui ont été bien coupées d'ailleurs.
Ah, c'est vrai.
Tu emmènes ta famille, tu fais regardez, venez voir, je suis dans le film.
Yes. Voilà, c'est une belle revanche.
Non, c'était même pas une revanche. Ouais. On était contents. Enfin, même lui, en plus, s'est rappelé des Émotifs Anonymes. Donc il y a eu un vrai, une vraie connexion et puis comme les deux personnages sont vraiment face à face tout le film, on sentait que l'un envoyait des balles à l'autre et que l'autre, enfin c'était hyper, je vais employer un terme très cinéma mais c'était très généreux. On était très généreux.
C'est une grande famille.
Une grande famille de deux. Ouais,
vous étiez bienveillant aussi ou pas?
Très bienveillant.
Vous êtes des belles personnes.
Hein. Ouais, c'était que du bonheur.
Si c'est le mal du siècle. C'est le mal du siècle.
C'est
mais
un film
en fait. On en est quand même là. c'est vrai, Anaïs. Et qu'est-ce que ça change de jouer avec une moustache et une perruque? Je n'ai pas posé tout à l'heure la question, mais je suis persuadée que ça change quelque chose.
Moi, la perruque, ça joue. En fait, ça m'a plongée dans quelque chose d'extrêmement ludique, mais au premier sens du terme. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être, quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de sketchs avec mes amies lilloises et vraiment on se mettait des foulards sur la tête, des perruques. D'un coup, ça m'a ramené vraiment à l'enfance et au côté très primaire du jeu. C'est génial. Et on se sent masqué, puis là j'avais cet accent en plus, donc j'étais très libre. Je me sentais très bien.
Même chose pour vous, Grégoire, mais dans Max et Léon, vous étiez déjà moustachu.
Oui, mais là, c'était une fausse moustache dans Max et Léon. Alors là, c'était vraiment la mienne.
Ah,
et
c'est
très bizarre parce que quand tu vis ça, donc tu joues avec cette moustache, mais quand tu rentres chez toi et que tu vas voir ta femme, les enfants et tout, tu fais bonjour.
Tu oublies ça. Donc quand on a un regard et qu'on a un petit mouvement de recul en disant oh là ouais bah ouais non mais j'ai acheté des enfin il faut vivre avec ça, il faut apprendre à vivre avec ça.
Et alors moi j'enlevais ma perruque. Hein.
Mais pareil qu'Anaïs, je me sentais quand même malgré tout caché avec cette moustache.
C'est pas vraiment vous.
Bah ouais c'est ça, ça m'appartient mais c'était quelqu'un d'autre et comme elle était assez prépondérante, on est vraiment quelqu'un d'autre.
Mais ce qui est amusant dans les films de Quentin, c'est que j'ai l'impression qu'il crée des figures en fait, et donc il prend des comédiens et il aime vraiment. C'est important pour lui l'aspect esthétique des rôles, quoi. Et donc...
Oui, pour vous en parler dès le départ, c'est
capital.
Ouais,
je pense qu'il dessine vraiment. Il y a quelque chose de l'ordre de la, presque du film d'animation, quoi, où chacun est très. On sent que dans son esprit à lui, c'est très prévu, quoi. Ça, c'est l'image qu'on aura.
Jean-Roger Navarro, vous allez bien ?
Oui, très très bien.
Alors, est-ce que vous savez pourquoi nous avons invité Anaïs de Moustier et Grégoire Ludig ?
Écoute, tu sais, Daniel, d'habitude, et je tiens ça de mon oncle, le grand Navarro, qui détient toujours le record du monde du plus vieux commissaire de police ayant jamais exercé sur la Terre, eh bien, d'habitude, les questions, c'est moi qui les pose. Alors justement, tu vas m'expliquer à moi ce que tout à l'heure t'as dit à lui, à Jenby, le gars poilu comme une chamelle là, qui est dans la, derrière la vitre, qui vous sert de rédac-chef, le pauvre. Et là, mon Daniel, je vais te demander, je vais te demander une chose, c'est d'interpréter ton propre rôle, parce que je suis un foutu d'imiter ta voix de crevard alcoolique. Donc, au GNB, tu lui as dit vas-y.
Si c'est demandé poliment. Alors je lui dis GNB vieille carne qui sent tellement fort, je comprends mieux pourquoi Nagui peut pas te sentir. Primo, tu pourrais attendre le déjeuner pour te taper des tartines de coulommiers qui te donnent une haleine de poney mort. Deuxio, il y a un principe absolu à respecter dans la programmation de la bande originale. On essaye d'inviter des gens qu'on n'a jamais eus. Alors, Ludique passe encore, on l'a eu qu'une fois, mais de Moustier. J'ai l'impression qu'elle pionce ici, entre Berléand et Ariane Ascaride. C'est Poulvorde qu'il fallait inviter, idiot.
Oui, oui, Daniel. Là, c'est Jinbi qui prend la parole. Oui, puissant Daniel, tu as raison de me sermonner. Venge-toi. Mais je t'en supplie, ne dis rien à Nagui à son retour de Russie.
Voilà, qu'est-ce qu'il avait pas le trouillomètre à zéro, le Jinbi. La mort de mes os. On lui aurait mis une olive dans le croupion, 3 litres d'huile, il en aurait eu comme rien. Première pression à froid. Alors, heureusement, Anaïs et Grégoire. Madame Cadour, elle a été aimable avec vous, je l'ai entendu à l'instant. Et moi aussi, j'ai aimé votre film. Sauf les interrogatoires, que je trouve un peu mollassants. Le réalisateur, qu'entend Dupieux, ma parole d'honneur, il aurait dû me demander conseil à moi, je lui aurais recommandé à lui le bottin de Babelweden. Daniel, je me rappelle pas si je vous ai déjà causé du bottin de Babelweden.
Oh, vaguement,
Ouais, que mon oncle, il m'a légué à moi, et qu'il se servait à lui pour faire cracher leur merguez aux enfants de putain qu'il soupçonnait. Alors, ça, c'est la tête du suspect. Ça, c'est le bottin de Babelouette sur la tête du suspect. C'est comme ça, le bottin de Babelouette sur la tête du suspect. Voilà, bonne émission. Et comme disait mon tonton Roger, que le bon Dieu, il vous l'allonge à tous.
Merci Jean-Roger Navarro. France Inter.
Avec une réalisation d'un sketch qui peut ressembler à un truc de Quentin Dupieux, un peu loin, mais pas loin quand même. Revenons à Haut Poste, justement, film d'interrogatoire. Est-ce que Quentin Dupieux vous a donné quelques références de films parce que quand on voit Haut Poste, on pense forcément à des gros classiques du cinéma français.
Comme
pense
Garde à vue. Le début,
ouais.
On pense à Garde à vue quand il dit La nuit va être longue.
Je pense qu'effectivement, mais après, il y avait un. Lui, je pense qu'il voulait faire son film à lui. Je pense qu'il n'a pas écrit en référence, c'est ce qu'il dit. C'est pas un film parodique, c'est pas une parodie de.
Il y a des références.
Non, exactement. C'est son film à lui. C'est vrai qu'on part dans un. Et la dernière fois, il parlait du magnifique aussi de Broca où il y a machine à écrire. Il imagine un peu ce qui se passe. Et il a trouvé ça en interview. Il a dit, ah mais oui, c'est vrai que j'ai fait ça aussi. Donc en plus, je pense qu'il s'est inspiré de manière plus ou moins consciente de plein de choses et pour faire son projet à lui en fait. Donc il y a des références, mais je pense pas qu'il ait voulu copier ou tel film.
Non mais petit clin d'œil comme l'affiche du
bien
film.
Bien sûr, bien sûr. Là c'est Peur sur la ville à mort.
Il suffit de voir le début du film pour se dire qu'il a pas voulu faire un film qui ressemblait aux autres parce qu'on a quand même une scène complètement ubuesque qui tombe de nulle part, un chef d'orchestre en slip de bain.
Voilà, il est en slip
dans
donc,
un champ.
À partir de là, tu dis ok, donc je suis parti pour 1h15 et je ne sais pas ce que je vais voir.
Ouais, c'est ça, c'est un film assez court par rapport à la moyenne des films actuels. 1h15, on a la sensation qu'au moins, pour une fois, on a un réalisateur qui nous livre sa vision sans chercher à entrer dans une...
Dans un code
de 1h30, 1h45 exactement. Pour faire plaisir à un spectateur qui se dirait j'ai payé tant d'euros, donc il faut que j'en ai au moins pour
faut
mon argent.
Minimum,
Non, puis je pense qu'il a écrit tout... Comment dire ça? Il écrit tout ce qui le fait rire et je pense qu'il voilà, il cherchait pas à se dire bon allez on va essayer de faire durer non voilà moi ce que j'ai raconté ça va durer 1h12, 1h15, 1h17 bah voilà très bien je suis hyper content et tout le monde est content et je me suis éclaté à le faire et nous aussi du coup parce que quand tu sens que ton réalisateur il est à bloc et que s'il est content de voir les comédiens interpréter ce qu'il a écrit il sait exactement ce qu'il veut, les indications de jeu elles sont hyper précises.
D'accord.
Ça va très très vite.
Il y a pas d'impro, il y a rien, tout
non,
est très très
que...
prévu.
Non, très écrit. Ouais. Et il a en fait, j'ai l'impression qu'il a une sorte de grande facilité en même temps. Quentin Dupieux. Enfin, il a l'air de, tout a l'air assez facile.
Ouais, c'est vrai.
Il monte lui-même sur son ordinateur, il monte tout seul et c'est lui qui cadre. Donc, enfin, c'est quand même des choses.
Bah, il fait tout. Hein.
Assez rares et ouais, il a l'air.
Ça, c'est un autre, budget, ouais. Ça, c'est un autre domaine, mais effectivement, tu fais bien de le soulever.
Non mais c'est fou, il a un vrai mélange de grande maîtrise et en même temps de, ça a l'air simple quoi, il en fait pas des caisses quoi, enfin, il fait du cinéma pour se faire plaisir, on le sent.
Un mélange, justement, les bonnes idées, c'était improbable, mais sur le papier c'était oui improbable, mais après ça donne un rendu génial, c'est Aurel San qui est le fils de Julien Poulvord.
Ouais. On n'a pas parlé du casting, ouais. Aurel San. Aurel San, une petite scène très très courte.
Ouais, mais qui marque bien justement. Ouais. On va pas
la déflorer.
Mais ouais, c'est super sa scène avec Aurel San.
Tant qu'on parle de casting, faut aussi préciser donc la présence de Marc Fraisse qu'on a évoqué tout à l'heure, qui a été connu un peu du grand public en tant que Monsieur Fraisse, qui est sur scène, qui est assez incroyable.
Ouais.
Philippe Duquesne aussi fait partie de du groupe. Jackie Lambert et je crois qu'on a fait le tour. Benoît Poulvord, on l'a évoqué, et tous les deux, bien entendu, Grégoire et Anaïs. Vous avez tourné combien de... Enfin, il y a beaucoup de scènes. Au même endroit, enfermé, donc il y a quelque chose, il y a pas de fenêtre dans la pièce.
Non.
Ça rend fou ou pas ça?
Ça fait du bien de sortir à la fin de la journée, mais c'est on a tourné 3 semaines au Parti communiste français là, dans le 19e arrondissement de Paris. Et c'est vrai que tu rentres vraiment dans un bunker et à partir du moment où tu rentres, on est en immersion et on retrouve tous nos personnages. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, ça, on est quand même content de faire du soleil. Ah, c'est pas mal. Un peu
il y avait quelque chose d'assez théâtral d'ailleurs sur le plateau qui ressemblait pas à un plateau de cinéma habituel effectivement, parce qu'on était tout le temps au même endroit.
Au Poste, sorti le 4 juillet, un film pourquoi? Un film parce que. Voilà,
c'est bien ça.
Je crois que on peut pas mieux résumer.
Belle formule.
Lila, aujourd'hui, c'est votre anniversaire.
Entre autres.
Et il n'empêche que vous auriez quand même sifflé.
Ben bien sûr. Et quand je pense à vous, Grégoire et Anaïs, je pense à un domaine que vous avez expérimenté, vous, Grégoire, mais pas encore vous, Anaïs. On y va.
Hey, qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée.
C'est obligé d'être pour la France.
Non.
Les combines pour se faire réformer, c'est quoi? Tu sais ça, toi?
Max Moulin.
Oui.
Cette compagnie va filer droit.
On dort la soirée et après on file en douce.
Nous sommes l'honneur de la France. Et croyez-moi, on va la gagner, cette guerre.
Déserté, mais vous ne pensez pas, j'espère.
Un extrait de la folle histoire de Max et Léon.
Tout à fait.
Dont vous avez écrit le scénario, Grégoire.
Oui.
Vous jouez dans le film.
Avec David Marseille. Ouais,
avec David Marseille. Vous avez même choisi le réalisateur.
Oh, il fallait que ce soit lui, de toute façon.
D'accord.
Ça n'aurait pu être quelqu'un d'autre.
C'est celui qui réalise vos
tous
sketchs.
Tous nos sketchs, oui.
Voilà. Et c'est votre frère qui s'est occupé de la musique.
Oui, Charles, tout à fait.
Est-ce qu'on n'a pas un petit côté contrôle fric, Grégoire Ludig?
Carrément, oui. Mais carrément, oui. Bah oui, mais on aime bien ça. Avec David, on se connaît depuis et qu'on est, je crois qu'on l'avait dit même ici, depuis qu'on est au collège, on a toujours bossé ensemble. Mon frère a fait nos musiques depuis toujours. Jonathan réalise nos sketchs depuis toujours et on s'est dit, le jour où on fera un film, il faut qu'on soit ensemble. C'est pas possible autrement. Et on a eu cette chance d'être ensemble. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté clan, j'avoue, on aime bien.
Et comment on fait quand on est comédien justement? À un moment, il faut se laisser aller, il faut aller vers d'autres, les prochains.
Oui, il faut aller vers d'autres, mais...
Il faut accepter de se laisser séduire.
Oui, tout à fait.
Il faut laisser sa moustache, tout ça.
Ça, c'est compliqué, ça. Elle est pas vraiment loin, hein. Il suffit de raser un peu là et elle est là. Mais justement, en fait, ça nous inspire aussi avec David de faire d'autres choses, des choses différentes, de rencontrer d'autres univers pour au final se retrouver, faire « Ok, alors moi j'ai pensé à ça, quand j'ai vu un tel. Ouais, lui, c'est la même chose. » Mais je sais qu'on ne se perdra pas.
Vous êtes un
couple
libre, en fait.
Voilà, c'est ça. Ben exactement. On s'est autorisé à aller voir ailleurs. Et quand on se retrouve, c'est encore mieux. Tu vois. Donc, écoute, pourquoi se priver de ça?
Vous en parlez quand vous vous retrouvez ou pas?
Ouais, bien sûr. Ah, on se cache rien.
Et les vidéos.
Là, justement, quand il a appris que vous étiez contacté. Comment il vous a contacté, d'ailleurs, Dupieux?
Par Twitter. Il m'a envoyé un petit message en DM sur Twitter en me disant « Salut, c'est Quentin. Est-ce que tu connais mes films ?» Point. Je fais « Oui ». J'ai connu tes films. Donc on s'est vu, on a bu un coca ensemble, et puis on a discuté. Il m'a donné le scénario. Après c'est classique quoi. Mais il y a pas eu le parcours on appelle un agent et tout. Ça a été vraiment un message. Est-ce que tu connais mes films? J'ai un scénario. Tu veux le lire? Ouais, carrément. Voyons-nous et puis voilà.
Direct.
Tu me dis ce que t'en penses.
Ouais. Et vous, Anaïs, même chose?
Non, moi c'est par mon agent.
Ouais, d'accord.
Et voilà. Dommage.
Peut-être qu'il a été contacté sur Twitter l'agent.
Ouais, peut-être.
J'ai pas Twitter de toute façon. Donc
voilà. Comme ça résout le problème. Et vous, Anaïs, au contraire, pas de scénario écrit encore, pas encore de réalisation, pas de... Est-ce que c'est...
Non, des sketchs avec mes copines quand j'étais en France.
C'est ça, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une envie là-dessus de...
Moi, ça me fait rêver leur histoire, là. Ouais, je trouve ça génial. Et j'ai participé à un sketch récemment.
Avec pas de macho.
Et j'ai senti cette espèce de famille, ce clan dont parle Grégoire. Je trouve ça très, très joyeux, j'adore. Mais j'ai travaillé par exemple avec Félix Moati, qui est un ami depuis quelques années. Donc il y a des endroits quand même où on se trouve des familles dans ce grand cinéma.
C'est une grande famille. J'adore les yeux. Je décris en même temps, parce qu'on n'a pas, vous n'avez pas l'image à la maison, c'est les yeux en l'air, ouais, et qui roulent un minimum, quoi. Ouais. Voilà. Pour dire qu'on n'est pas complètement dupe non plus de ce qu'on dit sur le cinéma.
Et pourtant, grande famille du cinéma, Au Poste, sorti le 4 juillet. Nos invités, Grégoire Ludig et Anaïs Demoustier, sont avec nous jusqu'à midi et demi. Wide Awake, Parquet, Kurtz, hey, dans la bande originale, okay, sur France Inter. Wide Awake, Parquet, Kurtz dans la bande originale sur France Inter. Nous sommes avec Grégoire Ludig, Anaïs Demoustier pour Au Poste qui sort le 4 juillet.
Quentin Dupieux de retour, sixième film, retour en France aussi parce qu'il a eu sa petite série américaine.
Ouais.
Il nous plonge en effet dans un univers indatable.
Ouais.
On ne sait pas à quelle période on peut être. J'imagine que même dans les décors, les costumes, il y a eu un vrai boulot. On ne sait pas du tout où on est.
C'est neutre.
Ouais.
C'est neutre. Bon, on imagine que c'est plutôt une scène nocturne, tout ça, mais on ne sait pas où, on ne sait pas dans quelle ville, on ne sait pas à quelle époque, on ne sait pas en quelle année. Et c'est bien parce que ça crée encore le petit aspect un peu mystérieux du film. Et ouais, je trouve ça pas mal d'avoir été un peu flou là-dessus.
Ouais. Et un petit vertige qui va même plus loin parce que cette notion de temporalité, elle ne s'arrête pas juste à l'année ou au lieu du huis clos. Elle va plus loin, c'est-à-dire qu'on se demande à quel moment vous êtes, vous, votre personnage, quand lors de l'interrogatoire, il y a des flashbacks, forcément. Parce qu'il raconte son emploi du temps, parce qu'il faut qu'il ait un alibi, comme dans toute histoire policière, et viennent surgir du futur, du présent, on ne sait plus, des personnages qu'il vient de rencontrer.
Exactement.
Ça, c'est complètement vertigineux.
Oui, on s'y perd complètement, en fait. Ouais.
Ça a été son délire, ça, à mon avis, c'est dit, tiens, si je fais un flashback, mais que le mec de la réalité, il est dans le flashback, est-ce que c'est bien ça?
Ouais.
Oh, ça doit être bien ça. Ouais. Et du coup, et c'est vrai que tout mis bout à bout, et ben, tu regardes le film et tu dis, ok, bon, bah, Et c'est ce que disait Anaïs tout à l'heure, c'est que tout est hyper voulu, tout est hyper travaillé et hyper précis.
Ouais,
en fait.
Vouloir nous perdre, d'être dans ce non-sens qui fait quand même sens par ailleurs.
Ouais.
Il a bossé longtemps sur le scénario, quand vous avez commencé à travailler avec lui, les choses ont évolué ou pas,
c'était
fixé.
C'était au tout début de Twitter, hein, je crois.
Ouais, c'était. je crois qu'il avait un Skyblog, je crois que c'était sur.
Sur Caramel.
Ouais, sur Caramel.
Voilà, sur Caramel.
Sérieusement.
Mais.
Moi, j'ai l'impression, je faudrait lui demander, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui écrit très vite. J'ai l'impression parce qu'il m'a parlé d'un scénario, il me dit oui, je sais tout ce qu'il y a dans ce scénario, il faut simplement que je l'écrive. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui doit vraiment.
Qui se la raconte un peu quand même.
Ça, c'est la phrase de quelqu'un qui se la raconte quand même.
Ouais, qui se la raconte un peu, mais il peut. Franchement,
j'ai l'impression qu'il dicte, les dialogues, ça fait très, très parlé. Dans les dialogues du pieux.
Ah oui, c'est ça. T'as l'impression que c'est de. Ouais. C'est ce qu'il dit. Il dit, je veux que ce soit du quotidien. Je veux qu'on parle du quotidien. Ouais. C'est pas les sushis. Bah oui, mais c'est parce que j'ai fait des sushis tout à l'heure.
Non, mais c'est plus intéressant que du quotidien. Je trouve que c'est presque comme du théâtre, justement, parce que c'est pas du langage parlé. C'est pas passe-moi le sel. Ouais. C'est plus compliqué que ça.
Moi, je trouve que parfois, on en est pas loin.
Bah non.
Ah putain, on n'est pas d'accord.
Ah, t'es con.
Ouais, vous ne fâchez pas quand même, ça se passait bien jusqu'à présent.
C'est différent.
Non.
Et en même temps, la pièce Passe-moi le sel, j'aimerais bien la voir.
Voilà, le débat, c'est quoi? C'est sur la normalité des propos échangés et sur l'intérêt qu'il peut y avoir. Parce que Poulvord, en tant que commissaire, dit bien dans le film qu'à un moment, ça l'emmerde les détails de votre vie qui est complètement chiante.
C'est ce qu'il dit, à un moment, il dit oh là, je me suis jamais autant emmerdé pendant un interrogatoire. Pas contre vous, il dit ça gentiment, mais c'est juste.
Mais les détails l'emmerdent alors que la scène de départ où il est au téléphone est d'une banalité affligeante.
C'est formidable, vraiment, il cherche à caler un rendez-vous avec Serge, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est merveilleux, ça je me sens dans le scénario, j'ai été hilar.
C'est ça en fait.
Moi j'ai
scénario,
pas encore vu le film en fait, fini.
Ah d'accord.
C'est ce qu'on disait avec Benoît, c'est un scénario où on rigole sonore quand on le lit.
Oui, à voix haute, vraiment très fort.
C'est pas juste on s'esclaffe un peu, on rigole intérieurement, c'est que là on laisse aller, on se dit ok, première page super, deuxième page.
À gorge déployée.
Ouais, c'est là, c'est pour les
jolies phrases.
C'est vrai.
C'est pour les pièces de théâtre avec Anaïs de Moustier. Mais nous, ouais, enfin, je sais pas, on lit et on se marre, et du coup, quand tu vois le résultat, tu dis ok, c'est exactement ce que j'imaginais.
Ouais.
Donc, t'es pas déçu du tout.
C'est un petit graal d'être contacté par Quentin Dupieux, parce que c'est quand même un réalisateur. On va l'évoquer tout à l'heure avec Renan Crowe, qui est critique de cinéma et qui va nous parler de façon un peu plus appuyée de l'univers de Quentin Dupieux, parce que c'est vrai que c'est la première fois quand vous êtes face à un film de Dupieux. Pieux, vous pouvez être complètement paumé et je pense qu'on a besoin de quelques clés pour l'appréhender, pour l'apprécier d'autant plus.
Ah, faut lire pas mal de bouquins.
Faut pas lire des bouquins, faut entendre un mec brillant et pertinent qui va venir tout à l'heure. Ça va vous arranger, ça va vous faire gagner du temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est être contacté par Dupieux, c'est aussi se dire, ça y est, parce qu'il crée des duos improbables, il a des comédiens fétiches avec lesquels il tourne le très souvent. Là, cette fois-ci, il y a eu une sorte de nouveau casting.
Ouais, c'est vrai.
Bah, en plus, il y a le côté, en fait, que je pense que comme il vient d'Amérique un peu. Il est très libre, il a pas d'a priori, donc il va pas construire une famille avec un casting un peu attendu, avec des gens qui ont déjà travaillé ensemble. Et effectivement, là, le casting du film, il est très insolite. Et ça, je trouve ça super aussi, qu'il vienne avec quelque chose d'ouvert.
Ouais, et puis c'était son retour aussi en France. Il s'est dit, allez, je reviens ici. Qu'est-ce qui me plaît là, on va dire, en ce moment? Et puis, je pense qu'on a eu la chance de tomber sous ses yeux à un moment donné.
Parce qu'il voit beaucoup de films.
Alors, il vous a vu dans quoi, respectivement, justement, alors?
Moi, je pense que c'est dans Caprice d'Emmanuel Mouret.
Ouais. Qu'est-ce qu'il a vu en vous qui a fait que vous êtes devenue cette zézette Valérie Mérès
Je sais pas, il m'a dit que je l'avais fait rire, il avait trouvé ça drôle, le personnage un peu, cette fille un peu folle comme ça, assez vive et tout ça, et c'est ça qui lui a plu.
Et vous Grégoire, il vous a vu dans quoi?
Dans État Sœur de Marion Vernoux.
Il
m'a dit j'aime bien ce grand gars, un peu, il a l'air sympa, mais on sait pas trop ce qu'il joue pas trop, qui est un peu... Voilà, qui est un peu spectateur de tout ce qui se passe, mais bon, ça a l'air de tenir la route un peu, ça a pas l'air de le décontenancer trop. Donc je pense que c'est ça, il voulait quelqu'un qui puisse jouer, de ce qu'il m'a dit, quelque chose de drôle, mais sans en faire des caisses.
Ouais.
Donc le côté un peu passif, le côté un peu ouais, j'ai la dalle, je vous jure, hein, c'est bien ce que vous dites, j'ai super faim, sans faire des grimaces, sans ce que nous on fait déjà en plus dans nos sketchs.
Ouais.
Donc là c'était bien que ce soit différent et tant mieux. Moi je suis.
Et c'est génial qu'il ait vu ça en vous.
Je suis d'accord, c'est un peu un graal, surtout que mon frère, lui qui est musicien, qui connaît Monsieur Oiseau depuis très longtemps, Jonathan Barré, notre réalisateur, qui connaît aussi tout le cinéma de Quentin et toute sa musique. Quand j'ai dit qu'il m'avait envoyé un message sur Twitter, il m'a dit, de ma gueule, ou... j'ai l'impression que c'était Rihanna, quoi.
Ce qu'il faut dire, c'est Quentin Dupieux, c'est aussi donc Monsieur Oiseau, et c'est un compositeur de musique. On le connaît notamment pour un morceau qui s'appelle Flat Beat. On l'a, je pense, en régie. Flat Beat. Bon, là, on l'a pas, non, il vient.
France Inter,
il vient pas, non. Je l'ai pas dans l'iPad. Les enfants, je parle à la régie, c'est pas très intéressant.
Et je rebondis.
Ça va
quand Grégoire parlait de.
Quand
Grégoire parlait du fait de pas faire des grimaces et tout, c'est vrai que c'est assez génial dans les films de Quentin, c'est qu'en fait, le comique ne vient pas d'un volontarisme des comédiens. Le comique vient de l'écriture.
Mais
vient
on y arrive à se contrôler parce que ça doit être difficile de temps en temps.
Flat Beat. Monsieur Oiseau.
Flat Beat.
Le propriétaire de la Fuego est matriculé.
Ouais. Ça oui, aussi, c'est Quentin Dupieux.
Ah non.
Et là, ce côté artisanal dont on parlait tout à l'heure, vous disiez, voilà, il monte lui-même, il tourne, il est derrière la caméra, il appréhende la musique de la même manière, avec des petits logiciels, il sample, il ajoute, et puis ça donne ça. Enfin, sur Flatbeat, il raconte qu'en gros, il s'est tapé un délire sur un morceau.
Il fait ça comme ça, voilà. C'est hallucinant, quoi, parce qu'effectivement, il est extrêmement connu, il remplit des salles énormes avec ça, mais il en parle vraiment comme d'un truc un peu secondaire, qui fait entre deux trucs. Enfin, tout a l'air facile pour lui, c'est vraiment un peu un sale gosse, un enfant gâté, quoi. Il a un truc un peu énervant.
On a envie de
le claquer. Ouais, parce que il dit tout le temps ouais, bon. Alors qu'en fait, il est très très talentueux dans plein de domaines.
Et donc, ça donne l'idée que peut-être après, vous allez faire des films encore avec lui. Il est hyper fidèle avec ses acteurs. Il y a peut-être un
pas.
Cycle
je sais qu'on
du
aimerait bien. Après, ouais. Je sais pas. Bah, s'il y a un cycle du pieu, je pense qu'il aurait tout intérêt aussi de prendre d'autres gens et d'avancer.
Dites pas ça joue contre vous, Grégoire.
Bah, peut-être, mais je pense que ça marcherait.
Non,
à...
ça fait modeste. Ça fait qu'il est dans le parti.
Non, pas du tout.
Vous avez LinkedIn.
Non, pas du tout. J'ai déjà signé mon prochain contrat, donc je peux me permettre d'ouvrir ma gueule.
On parlera de. Le prochain film de Quentin Dupieux,
oui,
qui est déjà en route.
Bah oui, qui est déjà
bien tourné.
Il est fini d'ailleurs.
Donc c'est pour ça, il a pris encore d'autres personnes et c'est bien, je pense.
Tout à l'heure, vous parliez de quelqu'un qui cherchait un grand gaillard qui fasse à peu près le job. Nous, on en a un à vous présenter. Il fait pas le job, mais c'est un grand gaillard. Guérémy Crêteville, pour sa drôle d'humeur.
Allez.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la bande originale. Brun, petit, aperçu pour la dernière fois avec des habits étranges dans un stade russe, il s'appelle Nagui. Si vous l'apercevez, n'agissez pas seul. Appâtez-le avec de la salade ou du tofu. Si vous êtes muni d'une asperge, agitez-la devant ses yeux. Sachant que si vous avez sur vous une salade, du tofu et une asperge, vous êtes sûrement maraîcher. Évitez les questions courtes, cela perturbe le Nagui. Prenez-le délicatement par-dessous les aisselles et attention, elles peuvent glisser si elles sont humides. Un conseil, penchez-vous fort. Debout, les aisselles de Nagui sont à 28 cm du sol. 28, voulant dire 28. Assommez ensuite le Nagui à l'aide de l'une de ses chaussures cloutées. Puis, déposez-le dans du compost. C'est tout, pour le moment. Voilà. Oui, c'est le même mec qui fait les alertes enlèvement et la voix dans Secret Story. Merci pour cette nappe musicale russe. C'est le secret de la voix, d'ailleurs, de faire la voix et les alertes enlèvement. Hein. Mais la voix ne participe pas à Secret Story. Enfin, elle y participe, mais elle fait pas partie des candidats, sinon il y aurait pas de voix. Et si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, sachez que moi non plus. Bon, il fallait que ça arrive. Après avoir pris la place de Morin la semaine dernière, voilà qu'on m'offre celle de Nagui. Ça m'émeut. Et je salue d'ailleurs tous les émeus qui nous écoutent. Parce que, les émeus sont des êtres qu'on oublie bien trop souvent. C'est vrai, les émeus, c'est un peu la catégorie écho de la famille des autruches. Ce sont des oiseaux qui ne peuvent pas voler, mais qui courent vite. Ce qui est complètement con. C'est comme s'il existait des guépards lents, mais qui planent. C'est vrai. Les émeus, pour info, ça court à 70 km/h. Ça veut dire qu'en ville, elles peuvent prendre des amendes pour excès de vitesse. Alors qu'ils n'ont même pas la possibilité de passer leur permis, puisque pour changer les vitesses, les ailes, c'est pas du tout pratique. Bref, les émeus, bisous. Et profitez-en bien de ma galoche, parce que c'est pas Nagui qui vous aurait salué dans cette émission. Une émission qui, en 4 mois, m'a fait passer du statut d'illustre inconnu à celui de... Bonjour Fred. À celui de parrain d'une association pas connue non plus. Une association qui s'appelle La Vie en Bleu. Alors, c'est pas une association de gens qui ont des hématomes.
Les schtroumpfs.
Ou de gens qui parleraient d'ailleurs toute la journée en schtroumpf. Ou encore de daltoniens qui chantent La Vie en Rose. Non. La Vie en Bleu, c'est une association qui œuvre pour la prise en charge précoce de l'autisme chez l'enfant. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi pour le côté précoce. Vous pouvez retrouver toutes leurs actions sur lavieenbleutoutattaché.org. Et quand je dis La Vie en Bleu tout attaché, je veux dire qu'il faut juste écrire La Vie en Bleu sans espace entre les mots. Parce que si vous écrivez littéralement La Vie en Bleu tout attaché avec les mots tout attaché après La Vie en Bleu tout attaché, bah vous tomberez pas sur le site de La Vie en Bleu tout attaché.org. Pareil, si vous écrivez littéralement La Vie en Bleu sans espace entre les mots, mais de façon littérale, enfin bref, écrivez juste La Vie en Bleu. .org. Voilà. Et org, O-R-G. Parce qu'il y en a qui pourraient confondre avec l'orgue, cet instrument du démon qu'on voit dans les églises. Et là, jamais, ils ne pourront se retrouver sur le site lavieenbleu.org. Cet assaut fête ses 4 ans le 8 juillet au théâtre de 10h. Et je viens peut-être de vous donner l'ordre du tiercé avec ces 3 chiffres. 4, 8, 10, on ne sait pas. Pour l'occasion, ils m'ont proposé de jouer mon spectacle. Et c'est vrai que quand on s'intéresse un peu à l'autisme, on apprend vite que les personnes qui ont des troubles autistiques n'ont pas beaucoup de second degré, voire pas du tout. Quoi de mieux qu'un spectacle d'humour pour fêter ça? Surtout que La Vie en Bleu agit pour la prise en charge des enfants avec autisme avant 4 ans et qu'une partie de mon spectacle parle de ma bite. Alors, message à ceux...
J'attendais,
Message à ceux qui ont de l'humour. Sachez que pour 20 euros le 8 juillet, vous pourrez venir aux 10 heures me voir bider, ça vaut franchement le coup. Et puis en plus, toute la recette du spectacle sera versée à les enfants qui auront été traumatisés pendant le show. Pour prendre vos places et ou faire un don à l'association, c'est simple, il suffit de vous rendre sur le site lavieenbleu.org, lavieenbleu tout attaché, évidemment.
Merci, Jérémy Crémy-Dorion.
Sur France Inter.
Ça mérite de bons droits d'auteur.
C'est vrai, je pense que là, t'as fait une bonne moisson. Et si c'est pour la bonne cause, tant mieux.
Quoi
On revient au poste, sorti le 4 juillet, le dernier né de Quentin Dupieux. Vous aviez vu ces films avant de tourner avec lui, vous les avez vus justement parce qu'il vous a contacté.
Moi, j'ai fait le mauvais élève. Enfin, j'étais mauvais élève, j'ai regardé après, moi.
Ah, c'est vrai, vous n'avez pas voulu le découvrir avant son univers.
En fait, c'est que je connaissais très mal, et du coup, après, quand il m'a contacté, je ne voulais pas non plus faire. Ouais, celui-là, je l'ai adoré. Ouais, super. Ah, génial. Et alors, ça parle de quoi? Super.
Un pneu.
Moi, j'ai découvert sur le tard. Ouais, moi, j'ai fait ça sur le tard.
D'accord. Et vous, Anaïs?
Moi, j'avais vu le pneu, j'avais vu Rubber. Et après, j'ai regardé Réalité. Enfin, ouais, j'en ai vu d'autres parce qu'il m'a appelé, quoi.
D'accord, ouais.
Vous et avez... Steak, j'avais jamais vu Steak. Extraordinaire.
Et qu'est-ce qui se dégage de ces films que vous pouvez retrouver dans celui-ci, dans Au Poste, pour ceux qui n'ont pas encore vu Au Poste et qui aimeraient le voir et qui ont vu éventuellement Rubber
Son humour, vraiment, c'est aussi bête que ça, mais c'est tellement tout son cinéma, c'est cet humour absurde, fantastique.
Et en plus, ce qu'il y a de différent aussi, c'est que là, pour le coup, c'est une scène très quotidienne encore. Donc, c'est hyper différent de tout ce qu'il y a eu. Donc, je pense vraiment que Au Poste s'inscrit, encore une fois, d'une autre manière. Que on retrouve effectivement les dialogues marrants, l'absurde et tout. Mais là, on part vraiment, là, pour le coup,
d'une situation classique.
De « alors, c'est vous ?» Non. Voilà, comment on fait un film là-dessus
Combien d'allers-retours
Exactement.
Anaïs de Moustier, Grégoire Ludig sont avec nous jusqu'à midi et demi pour Au Poste qui sort le 4 juillet. Nous allons revenir sur quelques dates importantes qui ont émaillé vos parcours. C'est la bande originale de vos vies. On commence en 2002.
Oh les champions,
oh putain,
on est tous ensemble, c'est le grand jeu.
Bah oui,
fighter debout.
Tous ensemble. Johnny Hallyday.
Va falloir s'expliquer.
Mais j'ai une explication. Hein.
C'est toi qui as écrit le texte.
Ça, c'est... En fait, je suis auteur de cette chanson. Merci Jérémy, tu as raison. Non, ça a été en 2002 avec David, je crois que c'était...
La création du Palma Show.
Ouais, et on avait fait une scène au Palais des Glaces. Et c'était notre premier sketch qui s'appelait Les Figurateurs. En fait, on était des professeurs de figuration. C'est-à-dire qu'il faut être excellent pour dire « Ah, ma baguette !» Voilà, donc, et nous, on donnait un peu des conseils et on entrait sur cette chanson. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Évidemment, peut-être parce qu'il y avait un rapport avec le foot. Mais voilà, pour le Palma Show, cette chanson, ça a été sur scène en plus. Voilà, une des
premières musiques qu'on a utilisées. Et aussi parce que c'est une belle chanson.
Et aussi parce que c'est Johnny, bordel.
Et pourquoi Palma Show?
Pourquoi? Parce qu'on avait un pote qui s'appelait Pierre Palma. Non, rien à voir. Mais, qu'on embrasse d'ailleurs.
L'ami de Michel
Larocque. Michel Larocque, qui fait partie des Enfoirés. Non, ça marche pas, il n'y a pas de... on avait un pote qui graffait Palma, et du coup, nous, vu qu'on a fait de la scène et qu'on a fait du show, du spectacle, Palma Show, c'est hyper compliqué, mais en fait, pas du tout.
Et vous avez commencé sur scène dans la salle de loisirs, je crois, de la Queue les Yvelines.
Yes, la Queue les Yvelines, exactement.
Il y avait 300 personnes réunies.
Deux soirs, et on faisait payer l'entrée à 4 euros. C'est très vrai, j'ai toujours les affiches chez moi.
C'était
un pote graphiste qui les avait faites. Et c'est ça, c'est de l'artisanat, hein. C'est du sketch où au début, t'as peur parce qu'il y a ta tante qui vient de Clermont-Ferrand, qui vient voir. Donc t'es un peu, en plus, qui est un peu crevé parce que les heures d'autoroute, c'est pas hyper confort. Donc tout part de 2002. Ouais, c'est ça, exactement, avec David.
Et après la tournée aussi dans les cafés-théâtres à Paris.
Oh là là, oui, ça c'était magnifique, ça.
Et pourquoi magnifique?
C'était
des moments de solitude.
Des moments de solitude absolument géniaux. J'aimerais que David soit là pour en parler, notamment au Bec Fin. On avait un sketch où, quand t'es sur scène et tu dois lancer, tu dis une phrase top pour que le mec, elle arrive, te fasse.
Ouais, à toi.
On y va.
Ouais.
Ah là, je pense que le mec s'était endormi. Donc
merde.
Et là, le mec, il ouvre la porte et il fait. Gérard balance le truc, et comme ça n'est pas venu, avec David on s'est regardé et on est parti de scène. Mais genre, les gens vont se dire: ah, c'est marrant, il faut une sortie de scène pas prévue. Non, on a pris le train, on est rentré chez nous. On est parti à Montparnasse. Et les cafés-théâtres, c'était plus Folies Pigalle aussi, mais c'était assez folklorique, on va dire.
Allez, changement d'ambiance en 2003 pour vous, Anaïs de Moustier.
J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Et la lune s'est moquée de moi.
Indochine, j'ai demandé à la Lune. Et là, on change d'univers, c'est plus vraiment le Palma Show.
Non, c'est
Michael Haneke.
C'est Haneke, c'est le temps du loup.
Ouais, c'est dingue.
Entouré d'Isabelle Huppert, de Béatrice Dalle et de Patrice Chéreau. Vous êtes toutes petites. Et vous avez failli pas jouer dans le film, en fait. Ça aurait pu être hyper compliqué, parce que je crois que vous n'étiez pas parisienne. Et puis, vous étiez au collège. Et il y avait un événement important.
Ah oui, il y avait le brevet des collèges, ouais, complètement, effectivement. Et je me souviens très bien de cette chanson, là, c'était vraiment le retour du tournage et tout ça, je me souviens vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah non, oui, effectivement, j'ai failli pas jouer dedans, parce que déjà la directrice du collège ne voulait pas que j'y aille. Et il fallait que je parte 2 mois et demi en Autriche, et elle a dit non.
Et c'est grâce à votre frère.
Peut comprendre, ouais.
Non, c'est pas grave. Mon frère, c'est le casting. En fait, j'ai failli ne pas aller au casting parce que j'étais bonne élève et que je voulais pas rater un devoir de maths. Et mon frère a dit, tu y vas. Tu sais, un film d'Haneke, mes parents connaissaient pas trop. Mon frère a dit, tu y vas, on s'en fout du devoir de maths. Donc là, heureusement. Et après, deuxième heureusement, mes parents qui disent à la directrice, eh ben, écoutez, madame, nous prenons notre enfant et elle va faire ce film même si vous refusez.
Ben,
puis on verra ce qui se passe à la rentrée.
Et vous montez, heureusement, et vous montez les marches avec ce film. Vous montez les marches à Cannes avec ce film.
Oui.
Avec toute la famille.
Enfin, oui, la famille était dans la salle. Ils ont pas monté les marches avec moi, mais ils étaient tous dans la chambre d'hôtel. On a beaucoup ri. Ouais, toute ma famille était venue, c'était génial, c'est un super souvenir d'une projection très houleuse qui s'est hyper mal passée. Les gens sifflaient, les gens détestaient.
Ah, la grande famille quoi.
Non mais c'était vraiment un film qui a suscité la controverse, et donc il y a des gens qui sifflaient, qui partaient, qui claquaient leur siège, qui faisaient exprès de faire du bruit en partant.
Funny Games déjà.
À Cannes.
Et pour un premier Cannes, ça doit être un peu traumatisant. Bah,
c'était surtout, je ne comprenais pas. Je me disais, mais les gens à Lille dans les salles sont plus disciplinés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, j'avais pas compris que c'était.
C'est la bonne élève qui se réveille. Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
Exactement. Et en fait, c'était un bon signe pour Haneke. Il était assez content, lui.
Ouais, 13 ans, vous aviez 13, 14 ans.
13 ans au tournage, oui, 14 à Cannes, je pense.
Allez, on va directement en 2009. Et à l'époque, vous écoutiez Anaïs. Stromae, alors on danse. Et là, c'est la nomination au César.
Meilleur espoir féminin pour les grandes personnes.
Mm-hmm.
Donc ça arrive quand même hyper vite aussi dans une carrière, tout ça.
Très sympathique. Ouais, très joyeux.
Comment ça veut dire, quoi?
J'ai le César d'honneur l'année prochaine. Ouais, c'était trop bien ça. J'adore ce film, Les grandes personnes, avec Daroussin, merveilleux partenaire. Non, mais je dois dire que c'est vrai que c'était super. C'était tout ça, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent comme des cadeaux. Et puis surtout, les vrais cadeaux, c'était les rôles, quoi. Parce que c'était des rôles. Incroyable, des rôles importants et très hyper riches. Enfin, j'ai tout de suite eu la chance de travailler avec des gens intéressants, avec des rôles qui m'ont plu. Donc, on s'en rend compte avec le temps, parce qu'à l'époque, j'étais jeune, je me dis ouais, Haneke, je savais pas trop qui c'était. Enfin, tout ça, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Et je m'en rends compte aujourd'hui.
Ouais, et cadeau aussi à 2009 dans cette période-là, c'est Christophe Honoré qui vous fait tenter les planches pour la première fois.
Oui.
Et en plus, vous commencez à Avignon, quoi, tant qu'à faire.
Oui, j'avais dit, j'aimerais vraiment faire du théâtre, mais je comprenais que c'était difficile de faire du théâtre public quand on n'avait pas fait le conservatoire ou une école nationale. Et puis, hop, Honoré me dit, mais je pense que tu vas pouvoir faire ma pièce, je suis sûre que ça serait bien et tout. Et donc, j'étais à Avignon, mais là, j'étais traumatisée. Enfin, c'était vraiment pas du tout une partie de plaisir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis allée foutre là? C'était vraiment horrible.
Et aujourd'hui,
niveau de stress, je faisais énormément de malaise à l'époque, et donc j'étais persuadée que j'allais tomber dans les pommes et empêcher la pièce de jouer alors que j'avais 3 scènes. Et je me suis dit, je vais tout faire foirer.
Genre le syndrome de la bonne élève. Ouais. Attention, je suis pas prête et tout.
Ouais, vous avez raison. Cool, là, il faut que je m'allonge.
Ça va pas du tout là.
Mais c'est vous quand
surtout pas ça.
Ouais. Non, mais j'étais sûre que j'allais faire, que j'allais tout faire foirer quoi. Et en fait, c'était très agréable.
Ça
et puis,
peut
finalement, j'ai rien
fait du
monde
en même temps
tout,
à Avignon.
C'était vraiment bien.
Ça peut attirer du monde à Avignon. Se dire tiens, la commune peut.
Et qu'elle tombe à tomber pas, mais ouais, c'est vrai.
Et dans le in, c'est
dans
ça.
Dans le in, alors ça, je découvre ce truc absurde d'Avignon, le in, le off, les rivalités, le truc, ça c'est très désagréable.
Ça marche vraiment que pour les professionnels, je crois que pour le public, ça marche pas. Ouais. Le public vient voir des pièces à Avignon, que ce soit du in ou du off.
Quand même un petit peu.
Non. Enfin, ça dépend qui, Voilà.
Voilà, ta gueule.
On peut conclure à tout, d'ailleurs, ça commence. C'est bientôt, là, il va y avoir des choses merveilleuses à Avignon, faut y aller, faut pas écouter les gens, faut aller voir des spectacles.
Faut trouver un.
Absolument. Dans la grande famille. Et une belle personne.
C'est
d'ailleurs, c'est dans la belle personne que Christophe Honoré vous avait offert un rôle.
J'essaye.
Et c'est comme ça qu'il vous entraîne pour faire Angelo Tirampadou, d'Hugo à Avignon.
Complètement.
Et la scène, à partir de ce moment-là, vous dites c'est terminé, je n'y retournerai plus jamais. Ou au contraire,
pas du
il faut
tout.
Que je bosse, que je sois.
Justement, j'adore ça en fait. C'est-à-dire que ça fait peur, mais c'est excitant. Hein. C'est toujours le problème avec ce métier, c'est qu'on y retourne comme des drogués.
Et pour vous avoir vu sur scène, ça vaut le coup d'y retourner.
Ah non, vraiment, j'adore ça. Et puis il y avait Emmanuel Devos surtout, mon souvenir de cette pièce, c'est Emmanuel Devos qui avait le rôle principal et que je trouvais incroyable de grâce sur scène et d'invention et de
que vous avez retrouvé
merveilleuse.
Après dans le problème de Bégodeau.
Oui, après on a fait une autre pièce ensemble.
Ouais.
Exactement.
Vous étiez super aussi.
Merci.
Grégoire Ludig en 2010, vous écoutiez. C'est génial.
Moi j'adore.
On est d'accord qu'on passe de Johnny
à Patti LaBelle.
Ah oui, j'imagine, bien sûr. On était dans les comédies américaines des années 80 en train de s'habiller. Oui. Allez, je vais travailler aujourd'hui. Yeah.
C'était un peu ça. J'adore.
J'ai l'impression qu'il y a Paul Abdul qui va débarquer et qui va danser.
En fait, pourquoi?
Oui.
Pourquoi? Parce que.
Ne vous justifiez pas, Grégoire.
Déjà, j'adore. Déjà, d'une part, hein, voilà, je le dis. Et aussi parce que c'était notre générique de fin sur Direct 8 avec David. Et on aimait bien faire la dernière image qu'on frisait. Donc, on était complètement immobile avec cette musique qui partait à fond. Le générique qui partait à fond parce qu'il n'y avait pas de temps, évidemment. Et voilà. Et ça me rappelle toute notre époque sur Direct 8, le début à la télé et tout. Et puis, en plus, je trouve ça bien, cette musique. Tu la mets en voiture. Ouais. C'est sympa, non?
Tu la mets ailleurs. Tu l'amènes n'importe où, c'est génial, c'est génial.
J'adore.
C'est le directeur des programmes de Direct 8 qui vous appelle, qui vous dit à tous les deux, à David et vous, en gros, on a besoin d'humour sur la grille, et pour l'instant, on n'a pas Papa Schultz, quoi. Ça s'arrête
c'est
là.
La référence. Oui, c'est vrai, c'était la phrase de François Barré à l'époque. Qui
le plafond de verre.
C'est
génial.
Bon, Papa Schultz, c'est très bien, nous on adore, mais en même temps, c'est vrai que son discours, c'était on ne vous connaît pas, on a vu vos vidéos sur Internet, est-ce que ça vous dit de venir sur Direct 8? Et nous, on a dit, oui, mais nous, on aimerait bien garder la liberté qu'on a sur Internet. Mais ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, on a essayé en tous les cas de faire plein de sketchs. Nous, on s'est éclaté. Cette musique, donc, est pour moi, et je pense pour l'équipe du Palma Show, cette musique, elle est hyper importante.
Mais pour tout le monde, j'ai envie de vous dire, Grégoire.
Mais ça me fait plaisir. Et ça me touche. Et ça, c'est cool. Et c'est sympa de la passer.
Mmh. Je suis ému. On va l'écouter
en entier. Je suis ému comme tous les gens qui ont parlé, Jérémy. Je suis ému.
Un spécialiste est venu nous voir, Leïla, et il s'agit de...
De Renan, c'est Renan Cros qui intervient très régulièrement chez notre camarade Antoine Decaune dans Pop Pop Pop.
C'est pas notre camarade, c'est juste un collègue, hein, je lui dirai.
C'est parce que Daniel n'aime personne, c'est pour ça que j'ai pas l'habitude. Moi j'aime beaucoup Antoine et on l'embrasse. Renan, vous êtes notre spécialiste ciné du jour, vous êtes critique cinéma. Et à un moment tu vas voir, Daniel, je vais te laisser tout seul avec le contenu, tu vas moins rigoler.
Elle est seule contre tous, je suis témoin.
Non, je suis seule avec vous.
C'est son anniversaire.
Présentez-nous un peu, Renan. Alors, on parle de Quentin Dupieux depuis tout à l'heure, comme un cinéaste complètement dingue, hyper facile, alors qu'il crée des œuvres qui sont hyper marquantes. C'est-à-dire que dans les réalisateurs français contemporains, Dupieux, alors qu'il n'a fait que 6 films, a déjà un nom, une identité hyper claire. C'est ce dont rêvent, j'imagine, beaucoup de cinéastes. Alors, c'est qui Dupieux ?
Il est culte, en fait, Quentin Dupieux, parce qu'il est arrivé dans le cinéma sur un malentendu. Anaïs parlait de Steak. Et Steak, c'est un film avec Éric et Ramzy, qui est sorti lors de la fête du cinéma à l'époque, et tout le monde pensait que c'était une énorme comédie comme La Tour Montparnasse Infernale. Et les adolescents se retrouvaient devant un film avec des types qui s'agrafaient le visage pour faire de la chirurgie esthétique et des trucs improbables. Donc en fait, Quentin Dupieux, il a un peu dynamité le cinéma français. C'est-à-dire, c'est un peu un punk quelque part. C'est-à-dire qu'il reprend les codes du cinéma français. Il prend des acteurs très bankable comme Grégoire Ludic et Anaïs de Moustier. Il leur fait tourner des films un peu cauchemardesques.
Il est bien, Renan. Hein, il est bien, ce mec-là. Il est bon, putain.
Des films un peu cauchemardesques. C'est-à-dire, il y a vraiment un truc dans son cinéma où
moustache, les cheveux, le cauchemar.
Exactement. Vous vous réveillez le matin et vous dites, j'ai rêvé d'un truc, c'était très bizarre, il y avait Benoît Poulvorde qui m'interrogeait, puis tout d'un coup il y avait Anaïs de Moustier qui arrivait avec une perruque et qui me parlait, et en fait c'est ça les films de Quentin Dupieux, c'est un cauchemar dont on se réveille et on se dit qu'est-ce que je suis en train de regarder. Et vous avez parlé de la séquence d'ouverture de Au Poste dans lequel il y a un chef d'orchestre en slip, ça c'est vraiment un truc qu'on peut tous rêver, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a dans le cinéma
vous en dites beaucoup sur
vous,
il
me semble que chez Dupieux il y a un côté cauchemar, et d'ailleurs Au Poste il y a vraiment ça, c'est-à-dire c'est le cauchemar de l'administration, et si tout d'un coup on se retrouvait enfermé avec un flic qui voulait pas vous laisser partir. Je trouve que tous les films de Dupieux partent d'une angoisse, c'est pour ça que c'est des comédies mais vraiment pas si marrantes que ça,
avec beaucoup de folie,
un peu flippant. Il y a quand même un film qui s'appelle Rubber sur un pneu tueur. Globalement c'est pas le truc le plus rigolo du monde, mais il arrive à les transformer en comédie, et c'est ça à mon avis la singularité de Dupieux.
C'est vrai que le cauchemar d'un chef d'orchestre, ça pourrait être ça, se retrouver à diriger en slip et ensuite interrompu pendant son concert, poursuivi par une horde de flics,
et ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens, mais c'est génial, mais ça donne le ton.
Exactement.
Alors il vient d'où, ce Quentin Dupieux? On en parle comme ça sans savoir son parcours. On a parlé tout à l'heure de la musique, de Monsieur Oiseau, de Flat Beats. Qu'est-ce qu'on...
C'est plutôt un autodidacte, en fait, Quentin Dupieux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est apparu dans le cinéma de manière pareille, comme toute une génération de jeunes cinéastes aujourd'hui, comme Romain Gavras, par exemple. Des gens qui se sont dit, on va faire du cinéma parce que personne nous attend, donc on va le faire quand même. Son premier film s'appelle Non-Film. quand même la meilleure manière de commencer une carrière.
Avec Sébastien Tellier.
Avec
Kavinsky,
Sébastien Tellier, exactement.
Donc on a la musique déjà.
Et en fait, il vient de la musique en même temps, Monsieur Oiseau, toute une génération, pareil, Sébastien Tellier notamment, Kavinsky aussi, toute cette bande de qui a renouvelé l'électro-française, et il fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire que Dupieux fait de la musique puis du cinéma, il fait les deux en même temps tout de suite, et ce qui fait que son parcours est traversé de ça. Notamment, il fait toujours donc la musique de ses films, et puis on retrouve par exemple Sébastien Tellier dans Steak, par exemple, en handicapé dangereux.
Il a bossé avec Gondry aussi.
Exactement, il a travaillé avec le premier groupe de musique de Michel Gondry, puisque pareil, on oublie que Michel Gondry était un musicien aussi, et leur carrière sont assez parallèles, même si Gondry est tout de suite allé vers les États-Unis, a fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donc il a été récupéré par les grands studios. Lui, Dupieux, est toujours un peu en marge. Et notamment, on parlait de sa période américaine, il y a un film qui s'appelle Wrong Cops, qui sont des films en fait très baignés de la culture américaine de Los Angeles. Donc en fait, c'est des films très underground aux États-Unis. Et en fait, Dupieux, il est presque plus connu, j'ai l'impression, en France qu'aux États-Unis, même si on a l'impression que c'est l'inverse, paradoxalement. Et Dupieux m'a raconté récemment qu'il est connu aux États-Unis uniquement parce que Rubber est le premier film disponible sur Netflix aux États-Unis. Et c'est pour ça que les gens le connaissent, en fait.
D'accord. Et ici, à ce micro, Eric Judor nous disait la semaine dernière que grâce à Quentin Dupieux, avec Eric et Ramzy, avec ce duo qui formait avec Ramzy, ils sont redevenus un petit peu plus.
Ils ont fait la couve des cahiers du cinéma, ce qui est quand même pas mal pour Eric et Ramzy.
Il a ce pouvoir-là.
Ouais, mais c'est surtout que.
C'est rare.
Je pense qu'il. Voilà, c'est ce qu'il fait avec les acteurs, on le voit dans Au Poste, c'est-à-dire qu'il prend des figures très populaires et il montre en fait que le populaire peut être lié aussi à des formes un peu hybrides, un peu décalées. On n'est pas obligé de faire des comédies avec Christian Clavier pour être drôle, c'est que tout d'un coup, avec Quentin Dupieux,
ça
il y a
aide.
Un truc. Ça aide.
Ah oui, ça marche aide. Pas mal.
Bah, justement,
vous voulez
c'est
parler
ça que.
De votre prochain film, Grégoire, c'est ça?
Pas du tout.
Mais ça prouve justement qu'il s'intéresse à ça, à la manière de pirater la comédie française. Moi, je trouve que c'est ça qui est génial avec Dupieux, c'est qu'on vraiment, il y a un côté pirate dans sa manière de faire des films, de la manière de les produire, de les tourner. Vous disiez qu'il tourne, il monte, il fait tout, quasiment tout seul. Alors, il a une équipe quand même très réduite. C'est ça qui fait que ses films peuvent apparaître. C'est des budgets très réduits et qui tournent très rapidement.
Est-ce que ça marche en entrée?
Tout dépend de ce qu'on appelle ce qui marche. Ouais. Quentin Dupieux est ravi de dire qu'il dépassera jamais les 100 000 entrées parce que de toute façon, ça l'intéresse pas de faire plus. En fait, c'est ça qui est génial avec lui. Moi, je pense qu'Au Poste va marcher. Ouais. C'est peut-être son film le plus accessible et le plus simple. Ses films américains avant étaient plus compliqués déjà parce qu'ils n'étaient pas en langue française. Là, je pense qu'en plus, avec Benoît Poulvord, il y a un casting un peu plus accessible. Dupieux aime ce côté un peu marginal de son cinéma et c'est ce qui fait, à mon avis, sa liberté. C'est que justement, il est libre parce qu'il est hors système.
On peut le rapprocher de qui, même si on vient de définir pendant quelques minutes à quel point il était inclassable, mais si on devait établir un parallèle pour ceux qui nous écoutent et conseiller un premier film. Il y a Au Poste, mais dans la filmo de Quentin Dupieux, on commence par quoi?
Je pense que le cinéaste le plus proche de Dupieux, c'est Bertrand Blier, en fait, dans son rapport au... Justement, moi, j'ai beaucoup pensé à Buffet froid en voyant Au Poste. C'est-à-dire cette manière, pareil, de faire un cinéma à la fois très concret, très banal, avec des personnages qu'on reconnaît, et tout d'un coup, de faire déraper ça vers un truc un peu étrange, un peu bizarre. Et il y a un peu aussi beaucoup de Louise Buñuel chez lui. Il y a une citation très précise dans Au Poste qu'on révélera pas, qui reprend le charme discret de la bourgeoisie. Et c'est vraiment les deux, à mon avis, cinéastes clé pour comprendre Dupieux, c'est Blier plus Buñuel. Je pense que autre Au Poste, qui est à mon avis le meilleur moyen de rentrer dans son cinéma, tout simplement parce qu'il y a le personnage de Grégoire qui est vraiment un personnage spectateur qui nous permet de comprendre ce qui se passe avec lui.
C'est le point d'ancrage.
Je pense que Réalité avec Alain Chabat, qui est un film sur un réalisateur qui cherche un cri et qui devient vraiment un film, une sorte d'Inception de Quentin Dupieux. C'est un film dans le film, dans le film, dans le film. C'est assez génial et il y a Jonathan Lambert qui est très très drôle dedans.
Et il y a déjà ça, ce côté un peu méta-cinéma, ne serait-ce que la bande-annonce, quand vous êtes face à Poulvord qui prend à la machine, qui note. Alors Grégoire, c'est quoi ce film? Tu joues quoi? Quel réalisateur? On est déjà dans le cinéma qui parle du cinéma et dans le film, sans dévoiler ce qui se passe, à un moment, on est aussi dans un décor qui est dans un décor qui est lui-même regardé par d'autres.
Parce que c'est ça qui intéresse.
On multiplie les points de vue.
C'est-à-dire c'est que le cinéma, c'est pas sérieux en fait. C'est ça qui, à mon avis, fait la liberté de son cinéma, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose où à la fois c'est très sérieux, les acteurs jouent tous très bien, c'est pas de la parodie, mais en même temps, avec une espèce de soupape, tout d'un coup, ça peut devenir un truc avec des acteurs qui enlèvent leur perruque, qui parlent, qui discutent. Par contre, il faut s'attendre à un truc, à mon avis, si on aime le cinéma cartésien, faut pas aller voir le cinéma de Dupieux. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à être un peu bousculé et à ne pas comprendre. Et surtout, c'est un cinéma qui n'a rien à dire. Et ça, il le défend très fortement. Quentin Dupieux n'a rien à dire. Il aime juste s'amuser. C'est un laboratoire. Et lui, il défend ça.
Et
mon cinéma
génial,
est un laboratoire.
Parce qu'il y a plein de films qui pensent dire quelque chose et qui ne disent rien. Le prochain film.
On les reçoit ici.
C'est vrai en plus. Non.
C'est notre quotidien.
On est d'accord, Roland. Le prochain film, parce qu'il faut quand même en dire un petit mot de
Dupieux. Il est déjà fini.
Il est déjà fini, mais juste pour le pitcher.
Ça s'appelle Le Dain.
Le Dain.
Avec Jean Dujardin.
Déjà, on voit bien qu'il va chercher encore un acteur populaire. même chose, ouais. Hein, le même procédé, et ça s'ouvre.
Et surtout, le principe, c'est que Dujardin va être à contre-emploi. C'est un mélodrame cette fois-ci. C'est comme ça à peu près que Quentin Dupieux le définit. Il dit que c'est totalement différent des autres films. C'est l'histoire d'un type obsédé par une veste en daim.
Juste le pitch, voilà, moi j'ai envie d'aller voir.
Et une histoire d'amour entre une veste en daim et lui, j'ai l'impression.
C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez de ces amours contrariés.
Mais comment il va faire quand il va vouloir grimper en puissance auprès des annonceurs?
Il n'a pas envie.
Il n'a pas envie du tout.
En tout cas, quand on lui pose la question, il dit « Moi, je suis très content dans mon coin. » Après, effectivement...
Quand on présente aux chaînes des pitchs comme ça, c'est quand même délicat.
Aujourd'hui, il a la chance d'avoir son nom, en fait, qui fait qu'on sait qu'il y a une petite cour de public qui aime le cinéma de Dupieux. Et plus ça va avancer, plus, à mon avis, il aura de grands acteurs. Il en a déjà des excellents ici, formidables au poste.
Il est vraiment bien, Renaud.
C'est vraiment ton meilleur pote, là.
Il a fait un triple salto. C'est bien frappé.
Mais j'ai l'impression que ce qui est bien, c'est plutôt les grands acteurs qui vont venir chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de gens bankable. C'est plutôt les gens qui viennent s'amuser avec lui. Et c'est ce qui montre aussi que dans le cinéma français, il y a des gens qui ont envie de s'amuser.
Mais il y a eu ça avec Monkey.
Oui, exactement.
Beaucoup de films de Jean-Pierre Monkey.
Et Blié aussi à une époque.
Merci Renan.
Merci Renan.
Je crois qu'on vous retrouve dans Pop 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 d'Antoine Decaune.
C'est du bien d'entendre des gens qui parlent des cinéastes.
C'est ça.
Après des acteurs qui savent pas en parler.
Oui, franchement. C'est vrai, on devrait faire ça sans vous.
C'est vraiment bon,
en fait.
Renan.
Merci Grégoire.
On devrait faire ça sans vous, en fait. On vous invite plus.
Voilà, sur ce, on vous invite plus, Anaïs de Moustier et Grégoire Ludic. J'espère que vous allez rester un petit peu. En tout cas, vous êtes là jusqu'à 12h30 pour Au Poste qui sort le 4 juillet en deuxième heure. Nous allons accueillir évidemment l'incontournable Tanguy Pastureau. Mais Tanguy Pastureau, il paraît que le président Macron était au cœur des discussions de tout le week-end.
Oui, on le reproche n'importe quoi, le pauvre, d'abord de vouloir une piscine à Brégançon. Enfin, qui n'a pas une piscine, comme vous me le disiez, Daniel, tout à l'heure, alors que vous me parliez de votre exil fiscal à la Barbade. Mais on a juste oublié que la piscine, les soirées mousses, ce sont des trucs de son âge.
C'est vrai, des trucs de son âge, c'est de votre âge. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission.
Ok, mec.
Pas de problème. Retour de la bande originale avec Albert Algoum.
Bonjour.
Et Rémi Trédville.
Bonjour.
Frédéric Segrist.
Bonjour.
Leïla est toujours là,
salut
évidemment.
Daniel.
Et
salut.
Une bande originale sans Nagui. Nagui, un petit indice avec la musique. Et oui, il est en Russie, il est en train d'encourager l'équipe de France. Enfin, ça, c'est le jour, le
allez,
soir.
Les bleus.
C'est plutôt quelque chose quasiment dégueulasse, si j'ai bien compris, Leïla, toi qui as des nouvelles régulièrement.
C'est vrai. Et on va revenir à l'actualité de ce jour dans la bande originale.
Poste sorti le 4 juillet. Voilà. Et nous avons avec nous.
Là où il finira.
Et ben, on a avec nous Anaïs de Moustier et Grégoire Ludig. On les applaudit, s'il vous plaît.
Bonjour. Très bankable.
Très talentueux, très bon.
Super populaire.
Il y a DiCaprio et il y a les deux là.
Voilà, pour cette dernière. Alors, c'est Magnum et Valérie Mérès dans le film de Quentin Dupieux. Voilà, c'est pour la promo.
Ah, c'est
pour
bien,
un
ça.
Film, une comédie.
Ah, c'est bien, j'aime bien. C'est
ça, Valérie Mérès qui a rien demandé à personne.
Oui, c'est vrai.
Elle doit être verte.
Elle doit être...
Bah, surtout son coiffeur, quoi. Enfin, je veux dire.
Non, elle est très bien servie par Anaïs de Moustier dans le film, il n'y a aucun problème. Voilà, vous débrouillerez entre vous. En tout cas, ce nouveau film de Quentin Dupieux, le sixième, on le répète, une très très belle comédie. Pour le coup, un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà, si vous avez envie de tenter une expérience, que vous ne connaissez pas le cinéma de Dupieux, c'est l'occasion avec Au Poste. Je rappelle rapidement l'histoire du film.
Bien sûr.
Situation initiale, somme toute assez simple. Un huis clos, dans un commissariat, un commissaire face à un suspect, accusé, potentiellement soupçonné en tout cas d'un meurtre, un homme en bas de son immeuble, et là, gisant dans son sang, le crâne fracassé. Et voilà la situation initiale de ce film. Et forcément, quand on sait qu'on a Benoît Poulvord face à Grégoire Ludig, ça ne va pas se passer exactement de la même manière, et que dans le même bureau, on a un certain monsieur Fraise, Marc Fraise.
Marc Fraise, ouais.
Et sa chair est tendre, qui de temps en temps fait des irruptions dans ce
Marc Fraise, qui est très déconcertant, hein, quand il arrive et qu'il commence à parler avec Fugain, que vous interprétez, Grégoire, on comprend rien de ce qu'il veut, et après il fait même peur.
Oui, bah après il fait peur, c'est ça. Mais après il fait peur. Il a une folie, mais une folie qui te fait rire en fait. C'est-à-dire que t'es complètement décontenancé quand tu le vois. Et mais c'est quoi ce gars? C'est quoi ce truc?
Vous le connaissiez
avant
ou pas?
C'est un adulte de 4 ans en fait.
Non.
Ouais, exactement. C'est ça. C'est un gars. Il a un corps d'un mec de 40 ans, mais dans sa tête c'est il est génial. Ses sketchs dans. Moi j'ai découvert Marc Fraise. Il faisait un sketch dans. Je crois que c'est
on demande qu'en rien.
Merci. On demande qu'en rien. Merci. Où il fait Sandou. Sandou.
Il répète 15 000 fois dans le salon de coiffure.
10 minutes, voilà, dans le salon de coiffure. Et là, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est génial. Il fait des tutos aussi sur Internet.
Comment bien nettoyer une table.
Vivement à regarder comment dresser son chien. Allez regarder les tutos de monsieur de Marc Fraise.
Ses sont pareils.
Et son spectacle, c'est incroyable.
Génial.
Michel. C'est pas la bonne musique d'intro. Michel, c'est pas la bonne.
Enfin, bon, bref, c'est Marc Fraise, il est
extraordinaire.
Il est super,
ouais. Ouais. Et on l'avait pas vraiment vu. On l'a vu récemment dans Problemos d'Éric Judor. Voilà, c'est un peu la même bande. Hein. On retrouve Éric Judor qui est quand même pas très très loin de Quentin Dupieux.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que c'est un peu la révélation du film. Quand on connaît pas ce comédien, on se dit mais d'où sort-il?
Je pense même que Quentin a été vivement conseillé par Éric Judor.
Pour
Marc Fraise.
Pour employer Marc Fraise.
Ouais, exactement.
Donc un film, une comédie, un film aussi de garde à vue, on va le dire comme ça, d'interrogatoire, où surgissent des personnages complètement improbables, un huis clos qui peut sembler oppressant parce que rien n'avance, en fait.
C'est vrai. ça dure.
C'est long, et en même temps...
C'est votre cauchemar, vous êtes au milieu d'un cauchemar.
Oui, c'est ça, je comprends pas. Ouais. Mais venez, on fait autre chose, on arrête, on reprend demain,
c'est
enfin,
ça,
on sort,
y a des
on
horaires,
va s'aérer, on va... Ouais, voilà, exactement.
Et vous tombez face à un flic qui est assez loufoque, un peu feignant, qui va prendre des heures et des heures pour régler des choses qui devraient même pas prendre une seule seconde, et c'est l'enfer en fait.
Ouais, et en même temps je me demande si ce personnage de Buron n'est pas content d'être là au final, parce que bon bah sa vie on la connaît pas. Je suis pas sûr qu'elle soit hyper remplie, donc du coup moi j'ai tout mon temps, hein, donc
personne
moi j'ai le temps, personne m'attend à la maison, donc on va y aller tranquille. Donc c'est ça aussi qui est marrant.
En même temps, vous, il y a votre femme qui vous attend à la maison pour regarder des films sur les chevaux, des documentaires sur les chevaux,
bah,
ça
ne semble
pas complètement idylle, quoi.
Si on aime bien Equidia, on est content. Hein,
c'est ça. Voir les films.
Chacun aime les animaux qui désire.
C'est drôle. Avec un casting génial, je le rappelle, Jackie Lambert, Philippe Duquesne, Aurel San aussi, qui fait une apparition, voilà, qui incarne le fils de Benoît Poulvorde, Marc Fraise, on vient de l'évoquer, forcément Grégoire et Anaïs qui sont avec nous aujourd'hui, et puis des caméos, je crois. Il y a des petites... Faut bien observer le film.
Oui, il faut aller jusqu'au bout.
Je pense qu'il y a des petits clins d'œil, il y a des gens qui passent comme ça. Donc restez vraiment jusqu'au bout, ne vous levez pas.
Voilà, il y a du monde.
Restez dans les parages pour au poste, en salle, le 4 juillet. On a hâte.
On a hâte d'être au 4 juillet, et on a hâte d'être à tout de suite, parce que c'est Tanguy Pastureau qui maltraite l'info.
Ah oui, Tanguy.
Tanguy, le président Macron, suscite polémique sur polémique.
Oui, Macron divise la France comme le peigne la coiffure de François Fillon en deux entités distinctes, la gauche de Sarret et la droite de Sarret. Il en a 10 fois plus à droite, ce qui montre qu'il est fidèle à ses valeurs jusqu'à son dernier follicule pileux. Macron, c'est un jeune type fougueux. Si c'était un cheval, ce serait Polly, le petit poney en pleine bandaison, dans un monde de vieux bourrins prêts pour l'écarissage. Et puis l'opinion publique, ce qu'on pense, nous les gueux, ils s'en tapent. Ce mec est plus libre qu'un naturiste libertaire qui viendrait de signer pour un CDD de bon stade. Du coup, il vit sa vie sans se préoccuper du qu'en dira-t-on. Demain, il peut taper dans le dos de Merkel en lui disant « Dis-moi, Dave, tu veux le voir mon tatouage ni Dieu ni maître à part Pierre Gattaz que je me suis fait sur l'épaule ?» Et donc, il froisse tout le monde. Et nous qui, en France, n'aimons pas la win, mais les losers magnifiques, d'où notre passion pour Benoît Hamon, qui dans 30 ans sera toujours le seul au monde à porter un t-shirt Benoît Hamon. Eh ben, on ne lui place plus rien. Hein, exemple, la semaine dernière, l'Élysée annonce qu'à Brégançon, le fort décrépit où le père Chirac s'était fait shooter à Welpé au balcon avec le seul oiseau à qui on n'avait pas envie de jeter des graines, ou alors lors d'un jeu érotique avec Alain Bougrain-Dubourg. Bon, ils vont installer une piscine, hein, parce que Macron, il est jeune, il est ouf, il a encore envie de faire la bombe dans l'eau en short Rip Curl pour éclabousser Brigitte et défoncer son casque en cheveux. Mais pas un bassin olympique, une piscine hors sol, démontable, payée 34 000 euros. D'ici 2 mois, ils appellent Julien Courbet pour chouiner, parce que chez le roi Merlin, leur pataugeoire, elle est à 4 000 euros. 3 400 lors des 15 jours étaient en folie. Donc là, direct, ça part, tout le monde le critique pour une piscine, alors que c'est la base. Macron, tous ses potes en ont une. Bolloré, Lagardère, François Pinault, ces gens passent la moitié de leur vie dans l'eau. S'ils croisent un ours brun, celui-ci leur racle la face d'un coup de patte pensant qu'il s'agit de saumon sauvage. L'OTAN de l'Elysée précise que grâce à la piscine, Macron n'aura pas à descendre à la plage, où là, il fallait poster un flic par pâté de sable, avec des types sur des bateaux disant au talkie-walkie: chut, attention, code 24, 36, 72, 29, numéro complémentaire, le 4. Le président fait un jokari avec son neveu. Je répète, un jokari, faites partir les rafales. Avec le risque en plus de se faire paparazzer. On se souvient des photos de François Hollande dans l'eau avec son short de bain gonflé autour du pelvis. C'était atroce. On avait l'impression qu'une méduse de gauche tombait folle amoureuse, lui prodiguait un rapport buccal, tandis que lui, les yeux révulsés, pensait à ce qu'il allait bouffer au dîner. Donc, c'est une polémique bidon. Macron va barbouiller
beauté dans sa piscine. Et nous, grâce à ça, on va pas le voir pendant 15 jours. Donc autant qu'on lui fasse aussi une piste de karting.
Il y a une autre polémique, Tanguy, c'est celle de la fête de la musique à l'Élysée.
Mais oui, là, pareil, les gars, fallait pas élire un kid si vous vouliez du Berlioz avec au premier rang Colomb qui pionce avec un filet de bave sur la cravate. Macron, il avait 6 ans lors des premières rêves. Il a grandi avec la techno. Pas comme Jack Lang qui, dans sa jeunesse, devait se contenter du tam-tam de ses congénères, les hommes singes, quand il partait chasser le stégosaure et qui a dû s'y mettre à l'âge de 110 ans. Donc, une fois à l'Élysée, Macron, il se dit yes, man, ce soir, le 8e arrondissement, c'est Ibiza. Ça va plus bouger du huc qu'au cours de gym chez les Kardashians. En ajoutant à l'intention de Castaner, cri-cri, t'as pas du poppers, j'ai envie de triper au point de voir le retour de la croissance. Et paf, ça s'offusque encore. Ouais, Macron a posé avec des danseurs noirs et gays. Ah bah oui, mais il fallait voter cheminade. Hein. Lui, il vous faisait une soirée alien avec les Bogdanov en train de lui dire vas-y, Jaco, signe ce document pour le prêt de 600 000 euros que tu nous fais. Et c'était plié. Macron, il a 40 ans, ça fait 40 ans qu'il est ennuyeux. Sa plus grosse cuite, ça a été à la tourtelle. Même sa crise d'acné a fait demi-tour en 91 en se disant c'est pas un ado, c'est un vieux. Donc à un moment, il faut que ça sorte. Hein, le programme 2018-2022, c'est soirée mousse dans la piscine à Brégançon avec des drag queens, Bob Sinclair au mix et concours de twerk avec des naïades à grosses fesses. À la fin de la soirée, il n'y aura pas que la piscine qui sera hors sol. Il va aller rejoindre Ariel Dombal tout là-haut. Alors ses détracteurs ont même été jusqu'à traduire les paroles de rap américain qu'un DJ a mis à l'Elysée. Alors il y avait un morceau dans lequel il se disait « T'es vénère parce que je me suis fait lécher les boules ». Mais quel procès d'intention ! Est-ce qu'on sait si ce n'est pas juste un freestyle de Thierry Beccaro racontant un tournage de Motus un peu hot ? Foutez la paix à Macron ! Oui, jeudi soir, des gens pas très habillés ont bougé du bassin en criant « Brigitte avec nous ». Mais le bâtiment a connu pire. Bachar al-Assad est venu y serrer des louches. On a eu Xi Jinping, un transformiste puisque c'est un dictateur déguisé en président. Et aussi les Saoudiens qui défoncent le Yémen avec les armes qu'on leur refile. Donc même si demain Marc Dorcel tourne dans la cour avec trois amatrices de Toulon, ce sera rien à côté de l'horreur symbolique qu'abrite chaque jour cet édifice maudit. Et puis Macron, lui, n'a pas dansé. Hein, il a le groove d'un chêne millénaire. Il n'a pas débarqué derrière le DJ, torse poil en hurlant, j'en place une pour le CAC 40 crew. Il a juste fait une photo avec des gens qui, eux, profitent de l'été, de leur corps, de leur jeunesse. Carpe diem, ça passe vite. Un jour, vous êtes Kev Adams, le lendemain, vous réveillez, vous êtes Nicole Belloubet. Alors Manu Montpetio, laisse tomber les jaloux, éclate-toi, la piscine, le soleil, la dance, fais-le ce duo avec Nicki Minaj, parce qu'en 2022, ce sera la librairie de Cambrai pour la signature de ton bouquin à côté de François Hollande. Donc vas-y à fond, mon loup.
Tanguy Pastereau.
France Inter. La bande originale.
Tanguy Pastereau survolté aujourd'hui.
J'ai jamais entendu quelqu'un vendre aussi bien une piscine.
Mais incroyable, on a juste envie d'y aller tout de suite.
J'achète. Grégoire Ludig est avec nous, accompagné par Anaïs de Moustier pour Au Poste sorti le 4 juillet. Allez, petite pause pour qu'on se remette de nos émotions de piscine et de glace ou autre alléchée cet été. France Gall, poupée de cire, poupée de son. Oh, mais oui.
Qu'est-ce que c'est que cette transition?
Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Il éclat de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois.
l'éclat de voix. Cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
France Gall, poupée de cire, poupée de son, dans la bande originale sur France Inter. Aujourd'hui, nous sommes avec Anaïs de Moustier et Grégoire Ludig pour Au Poste qui sort le 4 juillet.
Le dernier, Quentin Dupieux, un film complètement dingue. D'ailleurs, je me demande quand on tourne dans un film comme ça, vous avez lu le scénario. Vous, Anaïs, vous n'avez pas encore vu le film, donc ça, vous nous entendez en parler depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on a ce sentiment d'appartenir au réel? J'ai la sensation que l'histoire est tellement emplie de rêverie, d'une forme de poésie douce et un peu folle, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on tourne? Vraiment.
Oui, moi je trouve. Ouais. Justement, parce qu'en fait, les dialogues sont très concrets et ouais. Ils demandent un jeu très premier degré, comme disait Grégoire tout à l'heure, avec des personnages qui sont vraiment ancrés dans le réel et dans le présent. Donc en fait, la rêverie, la folie, le cauchemar, ça vient de la mise en scène, mais pas du jeu des acteurs.
Ouais, on le sent pas forcément pendant le tournage, qu'on est en train de créer quelque chose d'un peu fou. C'est un film où il n'y a pas trop de musique d'ailleurs.
C'est vrai.
D'habitude, il y a plus de musique dans les films de Quentin Dupieux, comme si c'était échanges.
Là, j'ai l'impression que Quentin, il s'est dit un peu place au jeu et place aux acteurs avec pas d'effets musicaux. Et puis comme l'intrigue se prête vachement à quelque chose d'assez taiseux musicalement, mais juste. Voilà, de la conversation, du dialogue, des situations. C'est vrai qu'il y a moins de musique qui peut y avoir dans d'autres de ces films.
C'était assez étonnant. Je m'attendais vraiment à une grosse bande son et finalement, mais il y a la musique de la machine à écrire, il y a la musique des flashbacks, des allers-retours. Donc finalement, on n'en a pas besoin en réalité. Et c'est aussi un film qui, moi, m'a vraiment beaucoup étonnée parce que on est dans un subterfuge mais permanent de tout, de la temporalité, même des rôles. Quand on vous voit apparaître, forcément je vois apparaître Fiona avec sa perruque, je vous perds de vue très très vite en fait. C'est-à-dire qu'il y a une illusion qui fonctionne mais tout de suite.
Oui, et on sent que chaque porte ouverte peut nous emmener ailleurs. C'est vrai que c'est assez passionnant quand on lit le scénario et quand on voit le film, j'imagine.
Il y a rien qui est figé en fait, il peut se passer tout et n'importe quoi dans n'importe quelle situation. Et c'est vrai, il y a un moment donné, tout à l'heure vous parliez de, on est regardé, enfin on pense être dans un endroit assez clos et en fait on se rend compte que, voilà, on peut être regardé aussi. Il y a quelque chose où, il y a un sentiment où tout peut se passer, évidemment, où il y a rien qui est figé, où n'importe quelle scène peut en fait en cacher une autre. Et ça c'est assez intriguant, c'est vrai.
Et puis je suis assez fière, on n'a pas dévoilé pendant toute l'émission, depuis le début de l'émission, un nœud central dans cette situation.
On va y venir.
Ne pensez pas qu'il s'agit simplement d'un simple interrogatoire. Non. Ça va beaucoup plus loin que
ouh
ça.
Là là, oui.
Il faut pas l'évoquer, faut garder
ça
le secret.
Surveiller Kevin Spacey.
Il faut penser à Marc Fraise, forcément, qui va jouer un rôle capital dans l'histoire. D'ailleurs, Marc Fraise qui apparaît et c'est déjà un subterfuge utilisé dans les films précédents de Quentin Dupieux avec une forme de malformation, avec un œil manquant, une sorte de masque qui rend aussi son apparition à l'écran déjà très...
Gênante ?
Non, pas gênante,
repoussante.
Parce que la première fois qu'on le voit, on le voit de dos de toute façon, donc comme si son visage ne servait à rien.
C'est là
a priori.
Qu'il est mieux, hein.
Il est très bien de face aussi, mais il est quand même assez angoissant et on relève là vraiment de l'imagerie du cauchemar en fait, quelque chose complètement improbable.
Oui, c'est vrai. Renan avait raison tout à l'heure aussi sur
ça.
C'est le cyclope, mais cyclope normal, c'est-à-dire que le mec n'a pas d'œil, enfin il en a plus qu'un. Et c'est d'accord. Donc ça c'est, mais c'est justement ça en dévoilé, c'est un peu la réaction du personnage de Fugain qui dit vous m'interrogez, vous me gardez, mais ça c'est normal. c'est normal.
Ok, j'accepte.
Ok, super. Ouais, alors, ça fait pas mal. Non, ok, d'accord.
Donc, en fait, j'ai l'impression que Dupieux s'amuse vachement de la folie des gens, en fait, des gens normaux, et aussi parfois de la bêtise aussi des gens. Par exemple, on a quand même tous souvent des tics de langage, et dans le film, à un moment, donc, tout le monde se met à dire c'est pour ça, et ça, je trouve que c'est très amusant, quoi, qu'il utilise des choses de notre vie.
C'est vous qui polluez tout le monde, parce que c'est votre expression.
Oui, celle de moi et mon mari.
Oui.
Mais c'est aussi un phénomène d'affection, c'est-à-dire qu'on reprend les tics de langage des gens qu'on aime, donc on peut aussi se dire qu'il y a un truc social là-dedans. Tous les personnages, on voit très bien que vous êtes forcément la femme de Philippe, parce que vous employez les mêmes façons de parler.
Complètement. Et mon personnage, elle est enceinte dans le film, et il y avait une scène, je crois, qui n'est pas dans le film, où elle parle où elle parle vraiment dans le détail de sa grossesse. Et je trouve ça extrêmement drôle. Ces femmes qu'on croise et qui nous racontent vraiment tout ce qui se passe dans leur utérus. C'est un peu dégueu.
C'est gênant.
Et ça, je pense que Quentin, il voit l'humour de
plus
tout
39.
Ça,
ouais.
Lui aussi, quand il parle souvent, il est dégueu. C'est Frédéric Sigrist pour sa drôle
Et il ne croit pas si bien dire, parce que ce matin, j'aimerais en profiter pour rendre hommage à un des piliers de cette antenne, qui fait aussi pilier de bar sur son temps libre. Oui, je parle de toi, Daniel Morin.
Tiens. Ah, c'était toi, Leïla.
Toi, Daniel Morin, qui depuis des années a survécu à tous les animateurs de cette tranche, qu'ils soient d'origine égyptienne, arménienne, espagnole ou citoyen grec de cœur. Pour toi, c'est plus une émission, c'est un séjour Erasmus.
C'est vrai.
Si Augustin Trapenard est la tête pensante de cette radio, si Laure Adler en est l'âme, et si Charline en est le foie, toi, Daniel Morin, tu es cet organe dont on se sert tous les jours, mais que l'on tient pourtant à l'abri de la lumière, de peur, comme le disait Carlos, de faire des jaloux dans le quartier. Or, aujourd'hui, en te remplaçant sur cette tranche du midi 20, hein, contrairement à ce parvenu décoiffé de Jérémy Crédville, qui la semaine dernière célébrait ta mort, moi, je mesure la difficulté à laquelle tu fais face quotidiennement.
Merci.
Celle de passer en dernier, après les billets d'Albert Agou, qui passe en premier non pas par un souci de politesse envers nos aînés, mais juste parce que Jean-Baptiste Bussière, notre rédacteur, doute qu'il puisse rester propre jusqu'à la fin de l'émission. Après les billets de Guillermo Guise, qui est déjà brillant, alors qu'on ne le comprend pourtant pas. Qu'est-ce que ça sera le jour où il maîtrisera notre langue? Ceux de Marina Rollman, dont le talent d'observation sociologique permet de rendre intéressant le récit philosophico-historique de sa dernière soirée dans un bar à tapas.
Ouais.
Ceux d'Alison Wheeler, qui nous prouve à chaque chanson que si la Rousseau avait été humoriste plutôt que chanteuse, elle s'en serait mieux sortie. Les miens, moi qui ne dois ma présence autour de cette table qu'à mon statut de métisse, banlieusard, quadragénaire, père de deux enfants et de gauche, ce qui fait que je porte à moi tout seul le poids de toutes les minorités.
C'est vrai.
Tu passes aussi après Tanguy Pastureau, le seul humoriste qui a l'emploi du temps d'une escort girl. Il vient, il fait son taf et il se casse. Et seulement à ce moment-là, c'est à toi, Daniel. Et pourtant, telle une statue de l'île de Pâques ou Gérard Collomb face à une famille de migrants incarcérés, tu restes inébranlable. Toujours prêt à produire des chroniques à la cadence d'un ouvrier du textile bangladais. À 6h55 du matin, à midi 20, ou même le dimanche, tu distribues des chroniques telles le pédophile ses bonbons à un concert des Kids United.
C'est beau.
Quand je pense que nous, intérimaires de l'humour, nous sommes quasi décédés lorsqu'on doit écrire 2 chroniques par semaine, que l'on passe sa semaine à chercher des sujets avec plus de véhémence que si on cherchait Xavier Dupont de Ligonnès, et toi, des fois, ta chronique est écrite avant même de savoir de quoi tu vas parler.
C'est vrai.
En Chine, certains enfants fatigués de fabriquer des baskets regardent certaines de tes chroniques pour se redonner du courage. Alors bien sûr, certains rédacteurs jaloux de tes droits d'auteur indécents, qui t'ont vu voir d'un bon œil la suppression de l'ISF, rédacteurs dont je tairai le nom, car Jean-Baptiste n'a pas le physique qui va avec ses reproches, certains rédacteurs diraient que tu es un escroc qui se laisse aller à des facilités stylistiques acquises par des années de pratique radiophonique. À ces gens-là, je ne dirais qu'une chose. Vous avez sûrement raison. Mais manger une fois tous les 6 mois chez un chef étoilé, ça ne suffit pas à s'alimenter. Alors que manger tous les jours des pâtes tièdes, oui. Daniel Morin, je te le dis, tu es mon héros. France Inter ne te le dit pas assez. Je rêve de devenir comme toi quand je serai grand. D'ailleurs, j'ai déjà commencé, je viens de faire une vraie chronique d'escroc.
Bravo. T'as tout compris.
Sur France Inter.
Quel talent, Fred. Ce Frédéric Sigrist.
Toujours aussi talentueux.
Toujours en spectacle.
Toujours en spectacle.
N'y allez pas.
On revient rapidement au film Au poste de Quentin Dupieux, mais surtout pour parler de l'avenir. Est-ce que vous avez des projets? On vous voit bientôt à l'affiche d'autres films.
Tout à fait. L'avenir. Le 28 novembre sortira un film que j'aime beaucoup de Frédéric Tellier qui s'appelle Sauver ou Périr.
D'accord.
Avec Pierre Niney.
Ok.
Sur l'histoire d'un pompier. Vraiment une sorte de drame.
D'accord. Et vous, Grégoire, qu'est-ce qu'on on s'attend à quoi? Il y a un prochain film en préparation
Oui, là, on tourne des sketchs avec David.
Ouais.
Donc, on s'amuse bien. Comme toujours, ben, ouais, ça fait vraiment.
Et où,
le boulot d'escroc, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Mais alors là, assumé total, ça, c'est cool.
Ça se voit.
Donc, ça, on réécrit plein de choses et on a envie de réécrire aussi un deuxième film. Donc, on va se pencher à ça et c'est la
Vous avez déjà l'idée, là, étapes. Vous avez envie, mais vous êtes.
On
déjà
est en train d'en mûrir quelques-unes et on va bientôt tirer au sort pour voir laquelle on va y tirer.
Ça peut vraiment se passer comme ça, en plus.
Ça pourrait. Ça pourrait, en plus.
Ça pourrait. Ouais. Et les planches, non, Anaïs
Pas tout de suite, non.
Pas tout de suite.
Là, je vais vraiment tourner.
image, mais
ouais,
après,
d'accord, forcément.
C'est
d'accord. Ouais, non, mais c'est mon quotidien. Voilà.
C'est ça.
En tout cas, on vous retrouve tous les deux avec plaisir à l'affiche au poste du nouveau film de Quentin Dupieux le 4 juillet avec une affiche qui vaut le détour. Si vous passez devant Grégoire Ludic comme ça, à genoux, avec ses menottes
si
et sa moustache.
Aussi,
ça c'est un autre cas de figure, mais ça ne nous regarde pas. Vraiment, arrêtez-vous parce que vous serez pas déçu de voir une comédie noire assez improbable et qui devrait vous réjouir à la maison. Voilà.
C'était formidable. Moi, j'ai trouvé ça vraiment délicieux. On est dans le partage aussi. On est dans la générosité. On est dans
toi,
le don.
Parce qu'il est temps de t'excuser. Il est temps de t'excuser, Daniel.
C'est que du bonheur. Oui, je suis désolé déjà pour Anaïs de Moustier qui n'a pas encore vu le film. Alors, pour info, vous avez été autant coupé que Grégoire Ludic dans Les Émotifs Anonymes. Mon conseil, n'y allez pas en famille. Il va y avoir des déçus. Désolé pour Anaïs et Grégoire qui ont découvert qu'ils n'étaient pas d'accord sur le film. En même temps, ça concernait que les dialogues, c'est pas aussi important que ça. Et désolé pour les gens du Nord qui ont découvert grâce à Anaïs que leur faible niveau de culture leur donnait le droit d'être racistes. En même temps, je vous rappelle qu'elle-même, enfin, bref.
Bon, c'était un bonheur de vous avoir avec nous. Nous, on se retrouve demain, Daniel, avec Ariane Ascaride et Simon Abkarian. On va parler théâtre. Deux textes de théâtre assez merveilleux. Et vous connaissez bien la bande Ascaride. On vous a vu dans la villa de Guédiguian. Donc, c'est la famille. Je prends
un autre film avec eux à la fin de l'année.
Forcément, la famille Guédiguian, on la quitte pas comme ça.
Non.
À demain, rendez-vous à 11h. Leïla, vous serez présente au rendez-vous malgré la fiesta incroyable et non hygiénique que vous allez pratiquer ce soir. Philippe Bertrand, carnet de campagne.
Oui, Daniel, Leïla, salut les amis.
Salut, comment ça va, Philippe?
Et Caprige. Caprige, c'est fini. Non, c'est pas ça.
Non.
Caprige, c'est la journée anniversaire de la venue au monde de notre Leïla.
Oui,
la naissance d'une étoile que je place au firmament de la grâce.
Ouais.
Faites attention, ça va se voir.
Je sais, mais je peux pas m'embraser au risque d'une autocrémation qui pourrait nuire au carnet de campagne. Mais toutefois, vu ma flamme, Leïla, je t'embrasse.
Non, et moi aussi. Et je t'aime, mon Philippe. Je t'embrasse.
Ça me dégoûte. Bonne journée.